Salut et bienvenue à tous à l'épisode 58 de la confrérie. Je suis Delta Coche et comme toujours, je suis accompagné de mes trois potos, à commencer par Multa.
Bonjour.
Akumasai.
Salut.
Et Davrous.
Salut à tous. Il a une nouvelle voix, je trouve.
Akumasai,
non? Non, comme s'il était dans une région différente du monde. Je sais pas, sa voix a changé. Peut-être c'est l'automne.
Ouais, plus bostonienne.
Je suis un peu moins à l'ouest, quoi.
Il est moins à l'ouest qu'avant.
Alors, donc, on a quoi? On a Seattle avec moi. On a Boston avec Multa. On a Lyon avec Akumasai. Et on a quoi? Paris avec Davrous. On peut dire Paris.
On couvre toute la planète, quoi. Sauf l'Asie.
Ouais, non, c'est bon.
On couvre un peu l'Asie avec David, mais
bien sûr. Moi, je suis la carte diversity asienne, je vous rappelle.
C'est vrai.
On peut faire toutes les blagues qu'on veut sur les Asiatiques.
On est protégé.
C'est pas comme ça que ça marche. On en a déjà parlé.
Moi, je m'appelle David. Donc, on peut faire les Juifs.
C'est ça.
Moi, j'ai un fils handicapé. Donc, on peut.
Alors là, c'est chiant. On va devoir recommencer l'enregistrement.
Pas mal.
Et on a deux chauves.
Hein? Ouais,
c'est vrai. Et un transgender, un petit peu, j'ai souvenir, Akumasai, tu réfléchis en tout cas à ta transition.
Ah, je savais pas. D'accord.
Ok, aujourd'hui, deux sujets fantastiques. Le premier, on va parler des connards. Ah. Voilà, en toute simplicité.
Bah, ils sont tous ici, ils sont tous là, non?
On a tous un représentant, ouais.
Et le second, mon petit. Ok, les gars,
putain, c'est chaud. Multa.
Donc. Ouais, et notre petit Multa va nous parler des DJ et l'histoire du DJ, je pense, ça va être passionnant. Alors, sans transition aucune, je vous propose d'attaquer tout de suite avec le sujet numéro 1, les connards.
Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con.
Je suis sûr qu'il y a une super musique pour les joueurs.
Mais c'est bien parce que tu fais ça en transition, mais il y a quand même une transition, c'est la musique.
C'est vrai, ouais, puisque la musique a une transition. Ouais, bah exactement. Ouais. C'était sans transition par rapport au ce que tu disais avant. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être cohérent, quoi?
On s'en branle ou on en a rien à branler?
C'est une vraie question.
Il y a certaines dimensions d'univers parallèles où ça peut être les deux en même temps.
C'est vrai.
Superposition d'état de genre-branlitude.
Alors, vous savez que on a tous autour de cette table une formation scientifique
commence bien.
je voulais étudier quelque chose qui vraiment je trouve ça beau presque. La capacité. Je pense que au moment du Big Bang. Ouais. Quelques femtosecondes après le Big Bang, c'est pas l'énergie ou la matière qui a été, ou le temps qui a été généré, c'est la connerie. La connerie était là avant tout le reste. Et ce qui explique sa capacité à être aussi bien répartie dans le monde. Tu vois, on parle du bruit résiduel du Big Bang qui est super bien réparti dans l'univers. Je pense que la connerie est encore mieux répartie. Et tous les jours, vraiment, je me retrouve confronté à des connards. Je me suis dit, il faut qu'on aborde ce sujet d'un point de vue scientifique. Et pour aborder ça de point de vue scientifique, j'ai créé une taxonomie des connards, tu vois, pour qu'on arrive à les catégoriser, parce qu'ils sont pas tous les mêmes.
Tu vois, la connerie, ça peut être défini.
Toi, si exactement.
Tu fais, voilà, tu fais.
Exactement.
Tu dis, raconte une connerie, ça peut être pour déconner.
Et est-ce qu'on n'est pas tous le connard de quelqu'un, finalement?
Et j'allais y venir. Justement.
Mais je sais, j'ai entendu parler d'une histoire comme quoi on peut être tous le connard de quelqu'un, mais je n'ai jamais trouvé jusqu'à présent. Bon, j'ai pas fait.
Moi, j'ai cherché aussi pour Davrous, mais Davrous, apparemment, n'est le connard de personne. Ce qui est étonnant, mais pourquoi pas?
Merci, mon amour.
Alors que personnellement, je sais que je suis le connard d'un paquet de personnes, et justement, pour aider la discussion, je me suis dit, on va essayer de créer une catégorie. Alors bon, comme nos auditeurs ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, je n'ai pas fait un truc trop compliqué non plus.
Bien sûr. Ouais.
Donc j'ai créé quatre catégories, en fait, et comme je voulais avoir une approche scientifique, je vais vous proposer la chose suivante. Pour chacune des catégories, je vous expliquais un petit peu ce que c'est. Pour chacune d'entre elles, j'ai fait l'effort, dans ma grande collection de connards, de vous trouver un connard exemple que je connais personnellement, avec qui j'ai eu des interactions assez récentes, pour le coup. Et à la fin de cet exposé théorique, nous allons le mettre en pratique, puisque nous allons mettre l'expérience en place. Et je vais vous demander de me donner un connard que je vous ai demandé de préparer. Et nous allons voir si ma taxonomie tient le coup. Est-ce que nous allons pouvoir ranger votre connard dans une de mes quatre catégories? Ah, c'est ça, super aujourd'hui. Intéressant.
Et les gens j'imagine, voilà, peuvent jouer à la maison aussi après.
Eh bien, d'ailleurs, n'hésitez pas à jouer à la maison. Laissez un commentaire sur... Il n'y a personne qui laisse des commentaires sur notre podcast, sur Apple Podcast.
Ouais, ou sur Twitter, où vous pouvez taguer le connard qui vous...
Ouais.
Vous pensez, ça peut être marrant, ça.
Voilà, exposez-les. Hein, voilà.
At Elon Musk, at Donald Trump.
Tag ton connard, ouais, bien sûr. Bon, c'est les plus évidents. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter des connards personnels, tu vois. Parce qu'effectivement, les connards universels, c'est facile à faire. Alors, on est parti. Donc, catégorie numéro 1, ce que j'ai appelé les connards stupides. Voilà. Alors,
on dirait une espèce d'émission, il faudrait une... C'est genre, catégorie number 1, stupide connard.
World premiere. Les connards stupides, en fait, c'est des gens qui sont des connards parce qu'en fait, ils sont idiots, ils sont cons, voilà, tu vois. Et si on va à l'origine du mot connard, ça vient de là, quoi. T'es con, tu vois, genre, t'es bête. Et du coup,
ils se rendent pas compte.
Ils se rendent presque pas compte, ouais, tu vois. Et un exemple qui vient facilement là, c'est les Trumpistes actuellement. Moi, je pense qu'il y a eu trop de mariages entre cousins, tu vois. Et effectivement, le niveau intellectuel a baissé. Et moi, ce qui se passe dans cet exemple-là, donc facile à définir, c'est les gens qui sont juste stupides, tu vois, et ça les rend cons. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, mauvaise éducation, comme je vous disais, mariage entre cousins, génétique, je sais pas, je ne cherche pas encore l'origine, pour l'instant, on va juste essayer de les catégoriser.
T'es au début de ton travail de recherche scientifique, j'ai l'impression, c'est...
D'espèce de... Exactement.
Ouais. C'est super, ouais, c'est... Alors là... ouais, c'est... on n'est pas encore...
Et là, j'ai vraiment une catégorie très fournie autour de moi, vraiment, et on n'a pas le droit de toucher à la famille, du coup, bon, je peux pas trop en parler, donc j'ai essayé de trouver des exemples proches
travail,
de moi.
Mais... Non, quand même, chez Microsoft, il n'y a pas de connard stupide.
Non, bien sûr que non. Alors, moi, j'ai un voisin. Là, tu vois, j'ai à côté de moi, vraiment, trois maisons plus loin. J'ai un voisin. Je vais vous donner, vraiment, pour vous mettre en tête ce qu'on a ici. Ils sont quatre dans sa famille. Ils ont deux petites filles, donc 5 et 7 ans, et lui et sa femme. Et ils ont 3 trucks. Voilà. Et déjà, moi, pour ça, c'est quelque chose. Le mec, il a 3 trucks, et ils sont 2 capables de conduire des camions. Déjà, ça me dit beaucoup. Quand on a dans le quartier ce qu'on appelle un HOA aux États-Unis, c'est une association des propriétaires du quartier, puisque notre quartier ne dépend pas du comté, c'est nous qui devons financer les routes. C'est les États-Unis ici, hein. Donc si tu payes pas ta route, t'as pas de route, voilà, c'est comme ça. Et donc on a une association où on se rassemble et chacun met au pot pour financer l'entretien des espaces verts et la route.
Alors il faut savoir que la route de Delta Koch, quand tu la vois d'hélicoptère ou par avion, il y a écrit Delta Koch, tu vois.
Bah oui, copyright, ouais. Tout à fait. Et achetez mes livres, il y a écrit
aussi sur le côté. Il le dessine du dessus comme ça.
Et il s'avère que ce gars-là, un jour, il est venu à notre meeting du HOA, et il a demandé à la mise au vote de l'autorisation de tirer au fusil sur les bambis qu'on a dans le coin. Parce que, comme on vit dans la campagne, on a des petits fans, et lui, il a voulu demander à pouvoir tirer au fusil. Alors, c'est pas le fusil à cartouche que vous avez dans les fêtes, hein. C'est le AK-47 automatique qui tire 4700 balles à la seconde. Ouais. Et il voulait l'autorisation du HOA, parce que c'est soumis à l'autorisation, vu que c'est un espace privé, de tirer avec son fusil de chasse, qui est un fusil de guerre, hein, c'est-à-dire que vous trouvez les mêmes en Afghanistan. Et donc, tout le monde dans le quartier lui a dit, tu sais, Koki, on habite tous à côté, c'est-à-dire que là, ta balle, quelle que soit la direction dans laquelle tu vas tirer, elle va finir chez des gens, tu vois. Elle va exploser la gueule du Bambi, ça va faire tout de suite du pâté de Bambi, ouais. Mais la balle qui est aussi large, tu vois, elle doit faire 7 ou 8 cm de long, ta putain de balle, elle va attirer dans les voisins, les enfants ou les murs. Et voilà, lui, il n'y avait pas pensé.
C'était ça son but final, tu vois. Mince,
bah, c'était tuer des gens. Et alors, lui, ce qu'il a fait pour le 4 juillet.
Il y a de fortes chances qu'il soit
trompé. Ah oui, non, mais c'est sûr, il a trompé, tout sûr. Et pour le 4 juillet, ce qu'il a fait, il a été acheté dans les réserves indiennes des missiles. On ne peut pas vraiment parler de fireworks ou de feux d'artifice à ce niveau-là. Le mec, il a acheté des micro-bombes nucléaires qu'il a fait exploser devant chez lui. On venait juste de faire refaire la route, ce qui nous a coûté super cher. Ben, lui, il a fait des trous dedans. Voilà, devant chez lui, il y a des trous dans la route parce que. Voilà.
Enfin, je vois, ouais.
Voilà, bon, c'est ce que je catégorise comme le connard stupide. Et j'en ai eu un vraiment récemment aussi. Alors, il est un peu plus technique celui-là, mais comme on a parmi notre auditoire des développeurs, ouais. Je voulais en parler. Le gars, il est venu, il m'a pingé, il m'a dit « On a un problème de sécurité dans Babylon ». Donc, Babylon, c'est le framework 3D que je développe. On peut imaginer ça pour les non-initiés comme un moteur de jeu. Voilà. Vous pouvez faire de la 3D avec sur le web. Et il me dit « Voilà, quand j'exécute ce code, ben, ça fait des choses. » Voilà.
Ça fait des choses.
C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Quand j'exécute ce code qui fait tourner Babylon, ça fait des choses. Voilà. On a eu ça récemment. Et dans
c'était
ces cas-là, tu te dis.
C'était quoi la question ? Il n'y a pas de question.
Non, le fait que je puisse exécuter du code avec Babylon, ça lui posait problème. Du code JavaScript sur le web, dans un framework JavaScript,
c'est pas sécurisé.
Pas normal pour lui. C'est pas sécurisé, tu vois. Oui, il aurait fallu qu'on ne puisse pas exécuter du code. Donc j'ai vraiment essayé de lui expliquer que Babylon, c'est du code.
Vraiment l'intérêt du moteur.
Si je peux pas exécuter quelque chose, je peux pas exécuter quelque chose. Tu comprends ça, la phrase? Eh bien non, j'ai Seb, pas notre Seb ici, et Alexis, deux autres copains qui travaillent avec moi sur Babylon,
qui sont venus,
qui ont essayé de lui expliquer, de lui dire, mais s'il ne peut pas exécuter du code, il ne va rien se passer, tu comprends? C'est-à-dire que tu vas ouvrir ton browser, ça va faire...
C'est ça que je veux, une version du moteur 3D qui
fait ça. Ça, c'est sécurisé, effectivement.
Bah, il fallait lui faire une version, tu lui fais une version avec un Babylon JS
vierge,
il n'y a rien dedans.
Éteins ton ordinateur, et quand tu vas taper sur le clavier, il ne va rien se passer, donc tu seras sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est le connard stupide. Alors gardez-le en tête, catégorie numéro 1. Vous me direz après si un de vos, si votre connard sélectionné rentre là-dedans. Le connard numéro 2, c'est le connard arrogant, qu'on appelle aussi les Karen. Vraiment, c'est les experts en tout. Ce sont ceux qui, on les retrouve beaucoup sur Twitter, ceux-là, qui ont un vrai sentiment de supériorité, une inculture abyssale. Et ils sont experts en tout, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, ils étaient experts en balistique quand on a tiré sur Trump. Là, ils sont experts en sport parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Ils sont experts en finance parce que... Et à chaque fois, ils ont un avis. Et ce qui est incroyable avec eux, c'est que leur avis est toujours foiré. J'ai toujours à côté de la plaque. C'est incroyable. Et là, j'ai un exemple parfait parce que j'ai récemment fait un dessin. Donc pour mon troisième livre de Poséidon. Donc dans mon livre Poséidon, donc ça, je vais pas spoiler ma propre histoire, mais effectivement c'est pas le Poséidon qu'on s'attend à trouver, vous savez, le grand humanoïde avec la barbe et qui tient son trident. Non, moi dans mon cas en fait, et ça va avec l'histoire, c'est un robot. Voilà. Et donc il y a un gars. Et donc quand je l'ai dépeint, vu que c'est Poséidon dans mon histoire. Il y a un lien avec tout ça, c'est un robot, je vais sans trop déflorer, qui contrôle la tectonique de la planète dans laquelle mon histoire se passe, il contrôle également les flux des marées. Parce que c'est un robot qui a accès à des processeurs atmosphériques pour générer la terraformation de la planète.
Normal.
Donc il y a une fucking histoire derrière mon dessin. Hein, parce que mes dessins, c'est juste des parts de mon histoire. Et il y a un gars qui est venu me dire, donc je vais traduire, je vais vous dire en anglais d'abord et après je traduirai pour ceux qui parlent pas anglais. What? Are you kidding me? What moron thinks that the water god, let's make him electric? That has to be the dumbest character design in the entire world. Donc le gars, il me dit, quoi? Mais qui est assez con pour faire un Poséidon, le dieu de l'eau, de manière électrique? C'est le design de caractère le plus con que j'ai jamais vu de ma vie.
C'est voilà. Vrai que faut donc l'eau, tu t'es au courant que l'eau, électricité, ça marche pas bien quand même, Delta Coach. Un truc qui est un grand scientifique.
Et donc, le gars, tu vois, il arrive, il sait tout mieux que les autres, alors qu'il connaît pas mon histoire, il connaît pas mon dessin, il pourrait dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est électrique, tu vois? Ça serait l'approche un peu moins conne. Eh bien non, mon connard arrogant, lui, il est arrivé, il m'a chié dans la bouche.
C'est le truc classique dans les réseaux sociaux, que tu vois les gens, ils se pointent.
C'est incroyable.
Ils viennent juste dire de la merde, c'est pas histoire de réfléchir à l'avance. Mais c'est tous les jours, ça. C'est vrai que c'est tous les jours, ça.
Et c'est fatigant, hein.
Donc c'est le connard arrogant. Oui, il y en a plein.
Connard stupide. Connard arrogant. Ensuite, la troisième catégorie, c'est le connard par conductivité. Celui-là, il est pas évident.
Il y a un rapport avec ton Poséidon qui...
Non, alors... non. Alors, le connard par conductivité, c'est un connard qui a une vie misérable, d'accord, mais qui a besoin d'étaler sa tartine à merde sur toi. D'accord. Le gars, il a une vie nulle, et certainement, peut-être qu'il a eu un accident de sa vie, ou qu'il est juste comme ça, et du coup... Il est misérable, mais il a besoin que tu sois misérable.
Ah oui.
Ok.
Il faut que tu sois.
Donc
même
il devient
de...
exactement. Il devient conducteur, connard par conductivité. Il a besoin de te transmettre.
C'est
par
les tireurs par le bas, plutôt. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc et pour eux, être misérable, c'est un art de vie, parce que quand tu essaies de t'intéresser à eux, tu te dis putain, mais pourquoi tu fais ces choix de vie? Mais parce qu'en fait, la misérabilité, c'est son besoin. Anyway, alors là, j'ai un exemple qui est incroyable. C'est un autre voisin. Et lui, c'est mon voisin direct. On partage un,
parle pas français,
un
j'espère.
Bout de terrain. Non, puis même s'il parle français...
Tu l'emmerdes.
Et d'ailleurs, il travaille chez Microsoft.
Ah oui.
Et alors lui, il faut savoir, je vais vous donner un petit contexte pour mon histoire. Autour de ma maison, avant, j'avais des wooden chips, des petits bouts de bois. Peut-être que tu mets un peu autour de la maison pour
tu peux
pas...
les manger, c'est des chips.
Non, je ne les mange pas, c'est du bois, tu vois.
C'est pour les fans. ça les alimente, ça les engrossit. Et puis l'autre, après, avec son AK-47, il tire dessus. Et...
il les shoot, tu vois. Exactement. Sympa, et donc là, j'avais ces bouts de bois. C'est une sorte de petite. Des grosses cires de bois que tu mets, ça permet de décorer. Bon, j'étais pas super fan, mais la maison était avec. Quand je... Enfin, c'était venu avec la maison quand on l'a acheté. Donc,
ouais, il y en a de partout et... aux US, là où t'es.
Donc, ouais, c'est assez classique. Mmh. Et un jour, il pleut. Et quand il pleut ici, il pleut, tu vois. Et il se passe que quand il pleut, vu que c'est pas collé au sol, les chips en question, ben, ils ont un peu, par le système de drainage, été vers sa maison. Parce qu'il faut que vous sachiez que sur les 22 maisons de notre communauté, c'est la maison la plus basse. C'est-à-dire que le système de drainage de l'eau passe à travers chaque maison et arrive chez lui au final, avant de partir après dans la campagne et dans la cambrousse. Bon, quand il a acheté sa maison, elle était déjà au plus bas. Donc il savait qu'elle était là. Et encore une fois, il a pris cette maison. Alors, on lui a pas demandé de la prendre, il a pris cette maison, il a pris celle qui est le plus bas possible. Donc l'eau qui découle de chez nous arrive chez lui. Donc forcément, certaines de mes wooden chips embarquées par c'est l'eau...
Comme, elles sont toutes sérigraphiées pour qu'ils sachent qu'il y a écrit Delta Coche sur chaque wooden chip.
Non, déjà, non. Et il vient me voir et il me dit... Alors d'abord, il m'envoie un email en me disant « Voilà, j'ai tes chips qui arrivent chez moi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Je sais pas, inverser la gravité, je comprends pas la question. Il y a l'eau qui coule vers chez toi, c'est un fait, hein, je sais pas contrôler ça, et ça. Donc là, première fois, je suis gentil, je dis ok, je comprends, ça te fait chier, j'ai pas envie de me battre. Donc je vire mes wooden chips et je mets de la pelouse à la place. Donc je paye quelqu'un. Pour ouais, cool.
Mode waveless.
Donc j'ai de la pelouse, ouais. J'ai de la pelouse partout. Ok. Et, alors. Voilà, petit moment, je me la raconte, c'est pas moi qui fais l'extérieur, j'ai un jardinier qui vient s'en occuper, voilà. Et là, il me ping une seconde fois, il me dit, donc là, à la place où j'avais mis des wooden chips, il y a de l'herbe maintenant, on est bien d'accord, ça c'est la nouvelle notion, d'accord. Et il me dit, ton herbe, elle envoie des graines chez moi, ok.
Et des petites catapultes, trop... c'est des fourmis qui se mettent.
Elle est trop haute, elle est trop haute ton herbe, elle envoie des graines chez moi.
Putain, mais elle est méga relou, quoi.
Je te propose de monter un mur pour arrêter les graines.
Arrêter les graines.
Et encore une fois, qu'est-ce que tu comptes faire? Et donc j'ai répondu, rien, bisous. J'ai juste écrit nothing, point, et on ne s'est plus jamais parlé. Comme ça, c'est ce que je caractérise par le connard par conductivité. Qu'est-ce que tu me fais chier? Il y a de l'herbe, l'herbe ça a des graines. Tu vois, il va écrire à ton dieu, puisqu'il est croyant, forcément, le gars. Il dit lui que t'as un problème avec son design, à la limite. Mais il me dit pas ça à moi, j'y peux rien, quoi.
C'était certainement plus bref. De l'herbe mexicaine, non? Du coup, il voulait faire un mur. Pour éviter qu'elle
ouais, bien, ouais, bien sûr.
Peut-être
bien sûr.
Qu'elle est pas bio et qu'elle est mexicaine, effectivement, est en train de contaminer son herbe à lui, qui est je sais ouais, type.
Qui doit toi, être parfaite,
j'y vais. Du coup, t'es l'avant-dernière maison sur la pente, toi.
Non. Ouais, moi je suis la 20e maison, mais bon, tu vois ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire un petit chemin pour que l'eau elle passe. C'est tout mignon devant chez moi, il y a une sorte de petit ruisseau, c'est magnifique, tu vois. Il pourrait faire pareil, mais non, lui il a décidé de vivre de merde, donc voilà, il va.
C'est vrai que c'est abusé de demander à ta pelouse de faire chez le voisin en envoyant ses graines là.
Oui, encore, je vous ai pas tout dit parce que je vous ai épargné, mais comme mon jardinier est mexicain, il m'a dit ton jardinier ne coupe pas bien l'herbe. C'est vraiment ça qu'il m'a dit à la base.
Ah, d'accord. Donc en fait, c'est une remarque raciste à la base.
Ah, mais vraiment, le mec est ouais. Le mec est trompé.
Oui, avec le mur. Alors, malheureusement, on peut pas faire de blague raciste sur les Mexicains parce qu'on n'a pas de membres représentant la communauté.
Donc, on peut pas se. On n'est pas protégé.
Mais par contre, sur les connards, on est en branle.
Ah, ouais. Ça, on est bien représenté.
Peut-être que les connards, c'est une surcatégorie, quelle que soit finalement, origines. Ouais.
Ah oui, c'est sûr. Alors ça, je pense que c'est partagé dans le monde. Je te dis, c'est quelques femtosecondes après la création de l'univers, c'est arrivé.
Alors je sais que t'es une et dernière donc, catégorie, mais est-ce que tu as fait un peu des recherches sur le pourcentage de connards justement par
Non, on est au tout début. Ah. Pour l'instant, on établit une taxonomie que puis je veux valider avec
j'ai
vous.
J'ai peur que ce soit subjectif, en fait. C'est ça le truc aussi.
Non, pas du tout.
Ah, mais comme toujours dans les sciences sociales.
C'est une très bonne question. À mon avis, non. À mon avis, c'est pas subjectif.
Donc, je vous rappelle, pour l'instant, on en a trois. On a donc le connard stupide, le connard arrogant, ou prénommé Karen, le connard de conductivité, celui que nous venons d'avoir, et le dernier, qui est certainement
désolé
mon préféré.
Désolé pour toutes les Karen qui ne sont pas des...
Ouais, d'ailleurs, j'ai vu des Karen qui s'appellent Kamren maintenant. K-A-M-R-E-N, pour pas se faire appeler Karen. Anyway. Les connards agressifs, c'est donc c'est ma préférée. Voilà, c'est ceux qui ont trop de conneries et du coup, ça les rend méchants, ça les rend agressifs comme un pitbull que tu nourrirais au yaourt. Et là, j'ai l'exemple parfait parce que à peu près une fois par semaine, je me trouve confronté à ça. Il faut savoir que je crée une petite application qui s'appelle Urza Gatherer, qui permet aux collectionneurs de cartes Magic, même si moi je n'en suis plus, je continue à maintenir l'app, de gérer leur collection. Ancien travail que je fais, mais je suis content parce que mes utilisateurs me payent un Patreon, ça me fait 500 balles par mois de Patreon, donc j'ai pas mal d'utilisateurs.
C'est
ouais, c'est et c'est vraiment une app qui est gratuite, il n'y a pas de publicité.
Celui qui finance sa pelouse.
Ouais. Il paye son jardinier avec. Je dois avoir $6 par mois, moi, donc je suis pas au niveau là.
Ah ben bah, tu vois, je mets à jour fréquemment l'application. Elle est gratuite.
Toujours
elle.
Plus que les, tous. Tu vois,
c'est que les autres. Mais moi je suis un connard arrogant. Moi je suis un connard arrogant. Ça c'est sûr.
Je sais pas, voilà, on déterminera pas. Ensemble ta catégorie plus tard.
C'est ça.
Et donc, je rappelle, l'app est gratuite, donc tu vas la télécharger sur tous les stores. Je l'ai même mise sur le Windows Store à l'époque où Davrous voulait que je mette des apps sur le Windows Store pour faire plaisir.
C'est à l'époque où j'étais un peu perdu dans la vie, c'est vrai que...
Ouais, pour faire des PWA.
Exactement,
voilà.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que je prends? Mais facilement, une fois par semaine, un mail d'un connard agressif qui me dit... Alors, le dernier en question, je l'ai pris puisque je l'ai reçu il y a également 3 jours. Il me fait un mail en me disant « J'en ai marre que tu me fasses perdre mon temps. J'ai rentré 15 000 cartes dans ton application de merde. » Ok, je dis salut, moi c'est David. Et quel est le problème? Et le problème, c'est que il n'arrive pas à voir. Donc, il faut savoir que Magic, c'est pour ça que j'ai arrêté Magic d'ailleurs, sortent des cartes tout le temps, hein, puisqu'ils essayent de traire à la vache hein, au maximum. Et donc, il y a des cartes nouvelles tout le temps. Donc moi, ça me force à mettre l'application à jour presque une fois par semaine. Elle est à jour une fois par semaine. J'utilise une technologie qui s'appelle les Service Workers. Elle a un petit problème cette technologie chez Apple et chez Microsoft sur Edge. C'est pas super bien implémenté. Et du coup, des fois, quand je pousse ma mise à jour, les utilisateurs la voient pas tout de suite. Ils la voient quelques jours plus tard. C'est quand le browser décide de faire la mise à jour. Ça marche au final, mais bon, bref. Et donc là, le mec m'insulte parce qu'il a acheté des cartes qu'il ne peut pas rentrer dans l'application. Ah bah je lui explique gentiment que la mise à jour de la base de données a été faite lundi, on est mercredi. Ça devrait pas tarder, mais voilà un forum que j'ai écrit, posté. Monsieur, tu peux aller voir là. Tu peux forcer la mise à jour. Il suffit de faire tout ça. Le mec me répond, ça marche pas. Je dis, ok, est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Et moi, je reste poli dans ces cas-là. Parce que je me dis que c'est potentiellement un client. Parce que si il reste sur mon application, ce qu'elle fait, c'est que tous les 5 lancements, elle te dit hey, tu n'es pas au Patreon, je vois que tu te sers de l'application. Est-ce que ça te dirait pas de souscrire au Patreon? C'est tout, c'est un petit bandeau, puis tu cliques, tu l'enlèves et elle te casse plus les couilles à vie.
Et puis t'as un petit kilo de aussi, 5. Je crois, si jamais tu le fais pas.
Et puis je formate ton disque au bout d'un moment, espèce de connard. Du coup, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ça marche pas. J'y vois pas les cartes. Je lui dis, est-ce que tu peux faire F12 et me faire une capture de la console? Il me dit, non, ça marche pas. Pardon? Ben, appuie sur F12 et putain, montre-moi la console. Il me dit, non, c'est... quand j'appuie sur F12, ça fait rien. Donc le gars m'a ouvert.
Faire F12, sûrement.
Ah, j'ai pas mon clavier de branché. Zut.
FN plus F12.
Le mec me ment ouvertement, je dis écoute, c'est pas grave, tu me fais une vidéo avec ton téléphone de ce que tu fais, montre-moi ton clavier et ton écran et je vais essayer de déduire ce qui se passe.
Putain, mais t'es motivé toi, c'est un truc de
ouf. Bah,
mais c'est pour ça qu'il se fait 500 balles par mois.
Ça lui coûte cher.
Ah, j'ai un vrai support client. Pas de nouvelles du gars pendant 2 jours. Hier, je relance. Il me dit non, en fait, c'est moi, j'avais trouvé, c'est parce que j'avais un bloqueur de pub. J'avais un bloqueur de pub sur mon browser et du coup, c'est lui qui est bloqué sur ça. Voilà, pas d'excuses. Pas de désolé de t'avoir insulté, de traiter comme une grosse merde sur une application que j'utilise gratuitement. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle les connards agressifs. Voilà.
Connards agressifs.
Et ça nous donne. Donc, les quatre.
Tous regroupés dans ces quatre catégories. Mais,
parce que par exemple, tu vois, agressif et arrogant, je trouve ils vont souvent ensemble. Donc je serais peut-être. Pas forcément. Ah,
alors vas-y Molta, parle-nous de ton connard. Raconte-nous son histoire. Est-ce que c'est un connard stupide, arrogant, conductivité ou agressif?
Plutôt arrogant, et c'est une catégorie de gens avec lesquels je bosse de temps en temps. Là, ça m'est arrivé récemment, la semaine dernière. Je ne vais pas donner de nom ni de contexte pour éviter...
Non.
C'est Michel.
On ne dit pas qu'il s'appelle Michel, Steve McQueen.
Voilà, Steve McQueen. Il s'appelle David, et ça finit par C, son nom. Et il y a Roux au milieu.
Roux mascassé.
Non, c'est pas lui. Il est connard, mais dans une autre catégorie. Non, mais c'est les gens avec lesquels tu bosses, et qui... arrivent souvent un peu en retard sur un projet, donc ils sont pas là au début et qui font
la moitié des infos.
Voilà, et qui posent des questions de manière arrogante justement en sachant quelle est la réponse et pour te piéger, tu sens que c'est pour te piéger, tu vois. Et donc là, ça m'est arrivé récemment, c'est encore pire que ça quand le gars il commence en prenant il mange des chips en même temps, en mâchant la bouche ouverte, tu vois. Il se met debout dans la pièce pour...
Moi, je quitte le stream, là. Clac, bisous.
Voilà. C'était pas un stream, c'était en personne, en plus.
Ben, je quitte la personne.
Bisous.
Donc, je fous une tarte et je me casse de la salle.
Tiens, bouffe tes chips.
Il parle, c'est fait. Ouais, donc là, tu vois, je vous évite le mâchage, mais vous pouvez imaginer le truc. Moi, tu sais, je suis pas très, très intelligent. Donc il faut que tu le rendes beaucoup plus simple, que faut que tu le dumb it down, tu sais, le dumb it down là, je sais pas comment tu traduirais ça en français, tu vois, faut que tu le rendes plus simple là, faut que tu le rendes plus simple le truc. Moi je suis pas très très intelligent là, il faut que tu, donc tu vois, de c'est une manière, la manière dont ils font ça, c'est une manière de dire, je pense que t'es un gros con, t'as pas su m'expliquer, mais je vais le tourner d'une autre manière pour te dire, à mon avis, c'est moi qui suis un peu con là, parce que ce que t'as dit, c'est de la merde. Est-ce que tu peux me le réexpliquer un peu de manière plus simple, plus simple. Donc ça, ça m'insupporte, mais à un niveau incroyable, sachant que le gars, et toutes les questions qu'il pose, donc il est sur son téléphone pendant tout le meeting, il écoute pas, il pose une question, un truc qui a déjà été dit, et au moment où les gens commencent à répondre, il retourne sur son téléphone. Donc la seule raison pour laquelle il pose la question, c'est pour montrer qu'il
sait pour exister dans le meeting. Ouais.
Il fait non, mais c'était une question importante. Voilà, moi j'ai pas besoin d'entendre la réponse, c'est pour vous les petits connards de base là. Moi je pose juste les questions pour rediriger la conversation dans la bonne direction, mais après j'ai mes emails à faire.
C'est une approche vraiment voilà,
et ça voilà, ça c'est
philosophique pour vous aider à comprendre.
C'est ça fait partie des plus gros connards qui ensuite vont aller faire du vont écouter à moitié dans le meeting et puis ça leur plaît pas bien et donc après ils vont aller faire un petit peu du comment dire, c'est dans le Seigneur des Anneaux là, je me rappelle plus, à un moment donné il y a un roi et puis il y a un gars qui lui parle dans l'oreille là.
Ah oui oui, bien sûr, oui, tout à fait,
ouais. Wormtongue là en anglais, je peux commencer en français, et c'est un peu ça, tu vois. Il va aller discuter aux gens, non mais tu vois ce que c'est pas de la merde et tout, faisons plutôt comme ça, etc. Ça
me, je sais
déteste ça.
Langue de pute quoi, c'est ça.
Voilà.
Ouais, c'est clairement un arrogant. Je valide l'arrogant.
Et aussi agressif dans la manière de communiquer.
Passif-agressif. Passif-agressif.
Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est,
merci,
c'est le pire pour moi. Le pire pour moi, c'est ça.
Ouais, je comprends parce que j'en ai aussi. Let's go to Akuma-sai.
Ouais.
Toi, t'as une belle collègue aussi. T'as dû avoir du mal à choisir.
C'est ça, en fait. C'est que moi, je suis complètement, je me prends
overwhelmed.
Je me prends une vague de 20 mètres sur la tronche en essayant de réfléchir à ce genre de problème. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais réfléchir au truc qui m'est arrivé récemment. Et, y a un truc qui m'arrive tout le temps et ça m'en fout, quoi. Je suis quelqu'un qui fait assez attention à mes affaires, en général. Et, tout le monde n'est pas comme moi et je demande pas qu'on soit comme moi, mais ce qui m'agace, c'est quand les gens qui font pas gaffe à leurs affaires impactent les miennes, et ça m'en débile. Donc exemple, les voitures. Donc moi je suis du genre de gars qui se gare à 40 km du moindre magasin, le plus loin possible pour pas qu'il y ait un abruti qui me foute un coup de portière ou je sais pas quoi.
Vieille, normal, une vieille.
Ou tu vois, ce matin par exemple, j'étais à un parc pour enfants pour que ma fille elle puisse jouer, et ils ont deux parkings, le premier parking il est juste devant le truc, il y avait personne, je suis arrivé avant le truc, mais je me suis pas garé là, je me suis garé au deuxième parking qui est à perpète.
Il anticipait pour l'arrivée des gens.
Exactement.
Surtout quand ils ont une poussette et qu'ils ouvrent et que
je demande rien, voilà, qu'on me laisse tranquille. Et ça m'arrive tout le temps, il y a un connard qui voit ma voiture de garée à perpète et qui va se coller juste à côté de moi, quoi.
Et c'est les mêmes aux chiottes, tu sais. Quand il y a 50 stalles pour pisser, toi tu viens à une, et le mec il peut pisser 10 stalles plus loin, non, il vient se coller à toi pour te mater la bite. Ouais, je vois ça tout à fait.
Et ça m'est déjà arrivé une fois où, tu sais, mais gentiment, parce que ça a un scénario, et le gars il se gare à côté de moi, on est loin de tout et tout, et je dis, mais le parking il est complètement vide, quoi. Pourquoi vous garez à côté de moi, là? Et le gars il comprenait pas, quoi. Ça lui paraissait normal. Il doit y avoir un espèce
de mouton.
Ouais, c'est un phénomène mouton. Ouais.
Ça, je valide connard stupide direct. C'est idiot.
C'est
une sorte de. Tu te laisses du. Ouais, je valide. Alors, moi, j'ai pas ce problème parce que ma voiture, c'est moi qui me l'arrête tout seul. Donc
c'est une bonne technique, remarque. Après,
non, mais toi, tu m'as dit, Delta Coche, t'aimes bien aller te garer sur les voitures un peu isolées. Et puis,
bien sûr. Comme la mienne, elle est niquée. Comme la mienne est niquée, je vais me coller aux autres pour que, tu vois, par porosité, je puisse aussi niquer celle des autres.
D'ailleurs, j'ai un autre truc par rapport au parking. Ça, c'est assez rigolo. C'est à l'inverse. J'avais un pote avec qui j'ai bossé, qui, lui, en fait, il détestait, et je suis pareil que lui, les gens qui, tu sais, se croient supérieurs et genre leur caisse, ils vont la garer sur deux places ou un truc comme ça, tu vois.
Ah, non, mec. Mais ça me rend fou, par contre. Moi, je fais des photos et je la poste sur Reddit, I am stupid.
Et du coup, lui, il avait une voiture toute pourrave exprès. C'était une petite bagnole avec laquelle il se trimballait, donc il en avait rien à foutre de sa voiture, mais il faisait quand même attention aux autres et tout, et c'était pas un connard pour le coup. Mais quand il y avait un gars qui faisait ça, et il prenait sa voiture et il se garait à 1 mm de la portière du gars, quoi. Et comme ça, tu vois, la vieille pression la plus totale, quoi. Et donc du coup, c'était bien marrant.
Tous les héros n'ont pas une cape comme
j'adore. Mais c'est ça.
Je suis fan de ça.
C'est clair. Bon, alors justement, et toi, Davros, on a eu, et c'est pas mal, on a eu du stupide, de l'arrogant. Qu'est-ce que tu me donnes, toi?
Alors, je vais essayer de donner deux types de connards, vous allez me dire. Parce que dans le milieu médical, je pense que j'en ai eu peut-être une centaine, à force de parcourir les hôpitaux. Je pense que c'est une bonne catégorie médecin. Je pense que ça doit être donné avec un diplôme de connard, je pense, par défaut. Ils sont très très rares à pas être connards, en fait, les médecins. Donc, mais le dernier en date qui vous a marqué, c'est un mec dans les forums Home Cinéma. Pour une fois, ça se passait bien. Parce que j'en ai beaucoup des connards dans les forums Home Cinéma.
Ah, oh bah là, tu vas dans le nid.
Ouais, ouais,
c'est ça le truc aussi. Quoi.
Donc,
ouais.
Les mecs qui m'ont insulté, qui m'ont menacé de me casser la gueule à une conférence sur le cinéma, Home Cinéma, où je devais être speaker pour Storm Audio. Parce que j'avais expliqué techniquement, avec plein de faits, qu'il ne pouvait pas avoir de différence ni d'image ni de qualité de son entre deux câbles HDMI qui fonctionnent, puisque c'est du binaire. J'ai expliqué le fonctionnement du protocole HDMI, j'ai cité même...
Donc ils veulent te casser la tête.
Oui, parce que j'étais monsieur je sais tout. C'est-à-dire que eux, en fait, je leur demandais c'est sur quoi vous vous basez pour... Je le vois. Je dis non, mais ça, c'est une méthodologie qui n'est pas valide, en fait. Je ne peux pas dire je le vois.
C'est l'effet placebo.
Ou ma femme l'entend, et moi, je lui ai sorti des trucs, des mecs qui mesuraient avec. Tu sais, il y a des appareils qui s'appellent.
L'image est plus chaude.
Ouais, ouais. Non.
le son est plus chaleureux.
Et puis, tu vois, au bout d'un moment, à force, je pense, de discuter avec le mec, tu vois, qu'il est complètement con pour le coup, peut-être que je finis par faire des. Enfin, pas des pics, enfin des petites pics, lui dire genre,
C'est pas ton genre pourtant, c'est bizarre.
Non, t'es pas comme ça, toi.
Sur les forums, j'ai essayé de faire attention parce que j'ai régulièrement des menaces comme ça, bon. Mais ça, c'est des connards, donc je sais pas, des connards stupides certainement, mais le dernier...
Ouais, c'est du stupide, ça. Ah oui, c'est du stupide,
on s'entendait bien, c'est un mec qui est un ancien pro du cinéma, enfin du son, qui avait...
C'est mon préféré, celui-là.
Qui avait plusieurs ingénieurs son sous lui, il adorait mes interventions qui étaient très sourcées techniques, enfin tu vois, je me forme en général, j'essaie de bien le faire. On finit par sympathiser, on discute, on fait un call sur WhatsApp, il me partage sa vie. Et puis au bout d'un moment, il me pose des questions sur la mienne. Et moi, rapidement, je finis par parler de mon gamin, donc de Nathan, avec son handicap et tout. Puis je lui dis, ah ouais, ça doit être difficile. Je lui dis, si ça t'intéresse, j'ai fait un blog pour parler. Tu vois, moi, à l'origine, quand j'ai fait ce blog, pour être honnête, il y avait deux objectifs. Je pense que c'était une forme de thérapie. Parce que j'en parlais pas du tout, je gardais ça pour moi, tu vois, sauf les copains qui savaient.
Alors que ça fait du bien, bien sûr.
Et le deuxième objectif, c'était de faire savoir. Tout le monde disait, ah, t'es un bon communicant au boulot, etc. Et puis, quand je l'ai fait, d'ailleurs, j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient, merci, j'étais un peu leur porte-parole. Genre, moi, j'arrive pas à m'exprimer comme ça. Ça a levé des discussions chez certaines familles. Il y a des gens qui sont venus voir Microsoft en disant, moi, j'ai mon frère qui a un enfant handicapé, je sais pas comment lui parler. Enfin, tu vois, j'étais content.
Et surtout, personne n'est forcé avec un fusil sur la tempe de lire ton blog.
Et bien sûr, oui, c'était... Et donc, donc, ça avait un double objectif. Certainement, premier, c'était exutoire. Et deuxième, je me suis aperçu que ça pouvait aider d'autres
partageatoire,
gens.
Partageatoire.
Et le mec, il me dit, mais de but en blanc, c'est-à-dire sans même avoir été sur mon blog. C'est-à-dire que je lui dis, et à peu près 5 secondes plus tard, il me dit, ah, mais t'es un pervers narcissique, en fait. Alors là, je dis... Je me bloque. Et en fait, j'ai tellement été.
Tu cherches la blague.
J'ai tellement
tu
été pris. Non, non, je voyais bien que c'était pas une blague. Et j'ai tellement été pris de court. Il me dit non, mais en fait, t'es en train de te victimiser, nous faire croire que c'est tellement dur ton truc avec ton enfant handicapé que t'as besoin d'être une victime. Et donc, du coup, tu utilises cette victimisation pour manipuler les gens. Et je me suis dit, ça m'a perturbé. Je suis sorti de ce truc-là, je vous l'ai dit. Parce que. Premier abord, j'aurais pu me dire, mais il est complètement, c'est un vrai connard le type. Surtout qu'on avait,
on avait d'excellentes
discussions avant qui étaient vraiment, vraiment intéressantes. Et le truc sort de nulle part, tu sais, genre, c'est comme si tu discutais avec un pote, tout se passe bien, puis d'un seul coup, mec, il te crache à la gueule de manière.
Sale nazi.
Et donc j'étais un peu choqué, mais comme moi je suis un peu un gentil con, vous me connaissez bien.
Ah non.
J'essaye de me dire, mais putain, peut-être qu'il y a un fond de vérité. Je commence à vraiment poser la question, genre, est-ce que je le fais pour manipuler les gens et tout? Et puis j'en parle à un autre de pote qui a fait ma salle ciné, qui le connaît bien, qui l'apprécie bien. Je lui dis, écoute, Farid, il y a un truc chelou là. Le mec avec qui on s'entend bien, il m'a dit ça. Il fait, non, c'est pas possible, on peut pas être aussi con pour dire un truc pareil. Donc ça m'a fait du bien, tu vas l'entendre. Et vous avez dit, putain, ouais, faut que t'en parles dans la catégorie des super connards. Mais c'est
un connard stupide de catégorie, tu vois, c'est un 5A.
Non, comme le problème qu'on a souvent avec les super connards, c'est que... On ne peut pas s'empêcher de leur trouver des excuses. De dire, ah, peut-être, parce que du coup, on allait discuter avec mon autre pote qui m'a fait ma salle. Il m'a dit, en fait, il connaît
peut-être qu'il a été violé par son chien quand il était jeune.
Ouais, certainement. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, j'en ai un peu marre, du coup, des super connards comme ça. Et dans la médecine, il y en a un qui est drôle. Donc, bon, il y en a plein qui sont vraiment très, très cons psychologiquement avec la gestion et l'annonce du handicap, tu vois, dans les hôpitaux. Mais il y en a un qui m'est arrivé à moi.
Et arrête, putain, t'es un pervers narcissique, ouais, de nous jeter au visage tout ça là.
Première histoire d'amour, je tombe très amoureux de cette fille en école d'ingénieur, etc. Elle me largue le jour de mon anniversaire. Donc, tout le monde se souvient de l'histoire.
Nice.
Moi, j'ai tout oublié. Mais ma mère, je pense qu'elle pourrait la brûler. Je pense qu'elle la croise à nouveau. Et, et donc, j'étais en déprime totale. C'est la première fois que j'ai testé... comment ça s'appelle ce truc, c'est pas un antidépresseur. J'ai un blackout d'une semaine, ce truc-là. Donc, je me suis dit, plus jamais je touche à ces neuroleptiques ou je sais pas quoi. Ça, je me suis dit, j'ai testé pour vous, ne le faites pas. Et mes parents, ils n'avaient pas énormément de thunes. J'avais jamais été au ski. Ils disent, bon, allez... Ton école d'ingé organise un truc pour aller au ski. On te paye des vacances au ski, tu vois. J'y vais. La première fois, j'y vais au ski. Pendant le voyage, tout le monde me dit, non, faut pas que tu fasses du ski, faut que tu fasses du snowboard. Tu vois, moi, j'appelais ça du surf, tu vois, mais j'ai appris que le surf, c'était autre
chose.
Ah,
ils avaient raison, mais bon...
Tu fais du snowboard, t'es goofy, t'es régulard, machin. Bon, je m'entraîne un peu la veille de l'ouverture des pistes, on m'explique. Et puis, le jour J, en une demi-heure, je me suis cassé le genou. Je me suis cassé les ligaments croés.
Voilà, mais j'aurais pu l'écrire celle-là.
Mais t'avais choisi le ski du coup.
Non, j'avais pris le snowboard. J'ai planté
c'est incroyable. Comment t'as fait ça
Moi j'ai le vertige. Et donc ils me disent, faut pas que tu fasses une verte. J'y connais vraiment que dalle. Hein. J'avais jamais été au ski. Donc il y a deux trois connards qui ont voulu m'expliquer rapidement en faisant croire que c'était possible. Ils me disent, faut aller sur une piste bleue, je crois. Ça doit être ça, le après vert, je sais pas. En tout cas, moi je vois bleu. Je dis, non mais ça c'est noir pour moi. C'est super pentu. Mais non, c'est bleu. Donc je descends. Et d'un seul coup, je savais tourner que d'un côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand l'autre côté, je me suis aperçu qu'il y avait la piste dans mon dos que je ne maîtrisais pas.
Faire un 360, quoi.
J'ai tourné...
À chaque fois, c'est long, quoi.
Ouais, j'ai tourné un coup de bassin qui a planté la planche dans la neige. Et ensuite, mon genou a fait une rotation autour de la planche.
Ah oui, lui, il n'a pas pu. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit lâcher l'affaire.
Alors, apparemment, j'ai fait un truc assez joli parce que les copains en bout de piste ont dit, putain, c'est super beau ce que tu as fait et tout. J'ai dit, ouais, mais j'ai un peu mal au genou. Mais bon. Puis, arrivé au bas de la piste, mon genou avait triplé de volume. Et voilà. Fin du game pour moi. 30 minutes, le pass qui coûte une fortune, pas remboursable. J'adore ce.
Et tout ça, c'est la forte. Alors, pute qui t'a largué. Moi, je veux son nom, on va la retrouver, quoi.
Donc, je rentre et je dois, du coup, aller voir un super chirurgien que mon père me conseille en disant. Lui, il s'est tout pété au genou parce que lui, c'est un autre type de connerie. Il a fait beaucoup de sport. Donc, il s'est tout pété en faisant ça. Donc,
faut pas
je te
faire
conseille
ça.
Mon super chirurgien. J'arrive. Bon, bonjour, super chirurgien. Vous faites quoi dans la vie?
C'est son nom. C'est Jean-Paul, super chirurgien.
Ouais,
c'était écrit.
Informaticien. Il faut savoir que les médecins, comme c'est des super connards, ils vous jugent en fonction de vos niveaux de diplôme. Donc, moi, comme je suis ingénieur, souvent, j'ai un respect de leur part. Mais je me souviens de mon ex-femme, comme elle était dans la restauration collective. Limite, il la regardait, voire il crachait un peu la gueule. Tu vois, genre, tu as rien bité, t'es trop conne. Toi, t'es ingénieur, bon...
Il te parle qu'à toi, même si c'est pour elle. Tu l'expliqueras après,
c'est
okay,
que plus 5, moi je suis à plus 10, plus 13, mais c'est déjà pas mal. T'as déjà fait l'effort d'avoir plus que le bac, tu vois. Donc, il me respectait un peu plus que... Donc, ingénieur, très bien, etc. Donc, il dit, installez-vous sur la table et écoutez bien cette phrase. Détendez-vous, je vais essayer de vous déboîter le genou.
Quoi ?
Elle est complètement débile cette phrase.
Je me rappelle,
détendez-vous, je vais essayer de vous déposer le genou. Que fait ma jambe ? C'est-à-dire que lui, il voulait.
Elle se contracte à mort.
Moi, allez, c'est une poutre, tu vois, un IPN. Le mec, il pouvait faire tout ce qu'il voulait.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe ?
Le mec, il fait de l'hypnose en fait. Il t'a hypnotisé. Après, il va casser les herbes.
Ils ont 13 ans d'études, ils sont complètement débiles. Franchement, faut vraiment être con pour dire une phrase pareille. Mais du coup, ma jambe se tend. Et qu'est-ce que fait le mec ? Putain, il s'énerve. Je vous ai demandé de vous détendre, monsieur Rousset. C'est comme quand Étienne dit rigole à ma blague en te gueulant dessus, tu sais. Genre, maintenant, on va devoir être obligé de faire une ERM parce que vous n'êtes pas détendu. Et là, je pète une pile. Je fais écoutez, je paye 70 putains d'euros pour une séance pour me faire insulter par un mongol. Moi aussi, je peux vous parler d'informatique, vous n'allez rien capter et tout. Le mec, il descend grave de pression, il commence à s'excuser et tout. Je n'ai rien à branler, je ne veux plus vous voir. Je
me suis t'as parlé de thunes. T'as parlé de thunes.
Tu t'es cassé, mais
tu
pas
t'es
très
cassé
vite.
Un le mec, il s'est cassé un
boitant.
Il est pas parti comme un prince d'Avrousk.
Un quart d'heure très très chelou.
Ouais, dans ma tête, c'est passé vite, mais peut-être que ça s'est mis 15 minutes pour sortir de la salle, je sais pas.
Certainement.
Donc, les super connards, vous en avez plein dans la médecine. Ouais. Ne soyez pas surpris quand vous allez dans les hôpitaux. Préparez-vous
Il y a des médecins gentils aussi. Il y a des médecins gentils parce que moi, je connais. Ils sont gentils.
Un médecin gentil que tu les connais, ils sont gentils aux US parce que tu les payes cher. Mais en France, il y en a très très peu.
Ah, mais tu les payes pas, les tiens ? Bah, mais si vous les payez pas, les gars.
C'est ça.
Alors, ben merci messieurs, c'était cool. Moi, ce que je voudrais, c'est de demander à nos 4 auditeurs et demi s'ils veulent mettre des tweets ou des commentaires pour nous dire un petit peu si eux aussi, ils ont un exemple et nous raconter peut-être leur histoire de leur connard. N'hésitez pas à ne pas les anonymiser, les gens aiment bien être flagués sur Twitter.
Name and shame.
Of course.
On n'a pas vraiment répondu à la question de est-ce que les connards, ils sont connards dans un... Tu vois, ils sont connards... Est-ce que c'est... ça dépend des gens?
Waouh,
que...
la question calme déjà. Ouais.
Est-ce que ça dépend des gens, du contexte ou pas? Tu vois, est-ce qu'un connard est un connard pour tout le monde ou non?
Non, typiquement, mes connards de Trumpistes, là, je pense que pour d'autres Trumpistes, ils ne sont pas connards, c'est des gens normaux, c'est moi le connard. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie notion de contexte.
Sûr. Moi, mon connard, disons que je suis un pervers narcissique, j'ai l'impression qu'il est assez universellement reconnu comme connard, tu vois.
Sauf s'il a d'autres gens comme lui qui pensent aussi que de parler de tes problèmes, ça.
Oui,
te
c'est
victime,
vrai. C'est vrai.
Je pense qu'ils ont leur propre groupe, tu vois.
Donc, du coup, je pense dans ton étude scientifique, tu devrais faire une espèce de pourcentage de connards. C'est-à-dire que s'il est reconnu genre à 95% comme connard par l'ensemble de la communauté, tu vois. Parce que peut-être, comme tu dis, Multa, des fois, il y a un connard qui est vu à 50%. Pour une personne sur deux, c'est un connard. Donc, est-ce que c'est vraiment un super connard? Je pense qu'il faudra définir le trigger.
Puis en plus, je pense qu'il a un échantillon qui est complètement représentatif de la vie. Donc, ça me paraît complètement juste comme.
C'est parfait. Mais le jour où je prends le prix Nobel de sociologie, je penserai à vous, les copains.
Et qu'on sera cité dans son bouquin en tant que connard avec une sous-catégorie.
La sous-catégorie des connards copains. Et on va passer tout de suite la parole à notre ami Multa qui va nous raconter la vie des DJ. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death and then just one break he said. Et ou DJ.
J'ai pas besoin de faire de transition.
Bienvenue ce soir à la soirée Multin.
Oh là là.
Oh putain, David, il a arrêté d'aller en boîte dans les années 75.
C'était c'est ça. J'y suis allé une fois dans les années 80.
Enfin, au camping surtout. C'était au camping. Hein.
Au camping des
fous. C'est pour la Miss Camping, ouais. Ok, Multa, à toi la parole.
Donc là, du coup, j'ai déménagé, comme t'expliquais tout à l'heure, à Boston. Plus précisément, Cambridge.
Wow, c'est en Angleterre, ça
commence à claquer direct.
C'est pas en Angleterre, c'est pour ça que je dis pas Cambridge, parce que déjà les gens ils savent pas où c'est Boston. Avec ta David, il pense qu'il fait, il fait froid ici, tu vois, en été, alors qu'il fait super chaud. Les gens ils ont aucune idée de ce que
mec,
c'est.
Mec, il voit Boston
pas,
au Canada,
Cambridge,
tu vois.
C'est mort, quoi. Les gens, t'es revenu en Europe, non, c'est pas
en Angleterre, ah ouais, c'est génial.
Il fait froid en Angleterre.
Beaucoup plus longue. Donc je dis plutôt Boston, c'est au bord de l'eau, à l'est. Et donc du coup, pour faire ça, on a conduit. On n'a pas pris l'avion, on a conduit pour déménager toutes nos affaires quoi, à travers les US. Et c'est à peu près 50 heures de route au total. Et donc j'ai enfin pu écouter un livre que j'ai essayé plusieurs
cette
fois.
Cette phrase est bizarre. J'ai écouté un livre.
Bah, j'ai écouté un livre, je sais, c'est chelou quand tu dis ça, mais qui s'appelle Last Night a DJ Saved My Life. Et donc c'est un morceau de musique qui est connu, mais c'est aussi. Je suis perturbé parce qu'il y a David qui change mes notes en live.
Putain, je corrige une fois, t'as écrit retrace avec deux S, ça me rend fou quoi.
Et donc voilà, et ce bouquin là il fait 450 pages et quand tu écoutes, c'est je sais plus combien, presque 30 heures, tu vois. Donc c'est un peu chaud de rester. De trouver le temps de faire ça, et donc je me suis dit, tiens,
il faut avoir 30 heures de voyage, effectivement.
Voilà, et donc du coup, je vais vous faire. Alors, ça part dans
tous les
sens,
en anglais.
Bouquin. C'est en anglais. En
ça
anglais.
Part dans et tous les sens.
Ça part dans tous les sens.
Une histoire de Multa qui part dans tous les sens.
Non, le bouquin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des faits du bouquin que j'ai trouvé les plus intéressants. Le premier truc, c'est que pendant très longtemps, moi, quand j'ai commencé à devenir. Enfin, apprendre à mixer, à être DJ, j'étais persuadé que ce qui est le skill le plus important, la compétence la plus importante, c'est de savoir mixer des trucs et faire des effets de ouf quand tu passes d'un morceau à de l'autre. Et en fait, en lisant ce bouquin, en écoutant ce bouquin, je sais que c'est toujours bizarre, en écoutant ce bouquin, je me suis rendu compte que c'est pas ça c'est important, mais c'est pas ça le truc principal. Le truc principal d'un DJ, c'est d'être capable de trouver de la musique, de collectionner de la musique, ça plairait à nos amis collectionneurs ici, de collectionner la musique, de trouver des trucs que les gens ils ont pas forcément, qu'ils connaissent pas, de connaître les trucs que les gens ils connaissent aussi bien sûr, ce qui est populaire. Et
la recherche de l'instru en fait, moi je trouve.
Voilà,
la recherche de l'instru.
Alors là
son,
je parle pas forcément de créer la musique, mais de rechercher des morceaux qui existent déjà, qui sont un peu plus underground. Il y a aussi l'aspect création, mais là on va surtout se concentrer sur les DJ qui passent la musique la leur ou celle d'autres personnes. Et donc c'est non seulement d'avoir tous ces trucs là, de bien les connaître, de les écouter. Les bons DJ ils écoutent plus d'une centaine de morceaux par jour, de nouveaux, pour les filtrer et en sortir peut-être 2-3 qui.
Quel que soit le style ?
Quel que soit le style, ouais. Et surtout à travers les âges, on va parler un petit peu de l'histoire. Mais voilà, donc leur but, c'est vraiment d'avoir tous ces morceaux, une bibliothèque, et de bien la connaître, de manière à pouvoir, quand ils sont à un événement où ils jouent de la musique, où ils font passer de la musique pour des gens, en fonction de comment ils arrivent à lire la foule, de se dire, tiens, là, les gens, ils ont besoin d'une pause, ou je vais essayer de continuer le truc, de trouver quel est le bon morceau à passer juste après. Et ensuite, il y a évidemment la technique pour réussir à le faire en direct, quoi, et pas l'avoir préparé à l'avance. Mais le plus important, c'est de se passer le bon morceau pour que les gens... Ils partent en couille,
ils kiffent
à mort, ou qu'ils ont la pause dont ils ont besoin parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont un petit peu en train de mourir. Ça, c'est un des premiers trucs. Et le deuxième, et le bouquin se concentre pas mal sur l'influence des DJ sur la musique à travers le temps, depuis le dernier siècle, entre guillemets. C'est de réussir à faire découvrir aux gens des trucs qu'ils n'auraient pas forcément trouvé par eux-mêmes, jusqu'à un extrême où, en faisant ça, ils vont peut-être créer un nouveau genre, ou... développer un genre qui aurait, ce serait pas développé si les DJ l'avaient pas mis en avant. Et donc,
okay,
voilà.
Cool.
Et donc du coup, je vais faire un petit peu l'historique parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment jusqu'à où on est arrivé. Déjà, dans ma tête, pour moi, les DJ, c'était la musique électronique, parce que c'est ce qu'on...
Ouais, c'était les années 90, quoi.
Voilà,
ouais.
Et ou même encore aujourd'hui, tu vois, genre des gens qui font DJ, souvent c'est la musique électronique. Je sais qu'il y en a un peu qui le font pour du hip-hop et du rap, ça peut arriver. Mais en fait, non, c'est les DJ. C'est n'importe qui passe de la musique qui a été préenregistrée sur un disque à l'époque et puis maintenant en électronique, et qui va le passer soit à la radio, soit devant des gens qui vont danser. Et en fait, ce concept-là, donc c'est pas forcément que la musique électronique. Il y a eu le cas pour le rock, il y a eu le cas pour le disco, enfin tous ces trucs-là, c'était des DJ qui passaient la musique. Et ça commence au tout début du siècle dernier, c'est super chelou de dire ça comme ça, en 1906, le premier gars passe à la radio, au lieu d'avoir un groupe de musique live à la radio qui joue dans le studio pour que les gens... Voilà, c'est un gars qui passe un disque. Et là, tout le monde pense que c'est un gros débile, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette idée de passer de la musique préenregistrée, les gens ils peuvent l'avoir chez eux s'ils veulent, même si en 1906, c'était peut-être pas très développé. Et il y a une espèce de bataille qui se passe entre 1906 et au début des années 40, qui forme le développement des DJ, justement, qui vont passer de la musique enregistrée, donc des disques, à la radio. Il y a un lobby qui se forme avec tous les gens, donc tous ces groupes de musique dont leur métier c'était d'aller à la radio et d'être payé pour jouer de la musique en live, quoi.
Ah,
ils sont
pas contents, ouais.
Coup, bah ouais, on va les remplacer,
ah ouais,
quoi. Les gens,
c'est toujours pareil en fait.
Ouais,
c'est toujours
la même chose. Et donc voilà, donc il y a tout ce... toute cette baston qui se passe, jusqu'à un moment où les DJ finissent par gagner, parce que tu peux passer vachement plus de trucs différents quand tu passes de la musique enregistrée que si tu as Marcel et son orchestre qui vient et ils savent jouer qu'un style de musique et puis c'est fini, quoi.
D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a très peu de musique jouée en live maintenant à la radio.
Ouais, c'est ça, non, rare, c'est très rare. Ouais, ouais.
Bah, même plus, je pense pas, quoi.
Ouais, bah, en tout cas, enfin moi quand j'étais, je sais pas, quand on était jeune, bon,
de la musique classique peut-être qui est faite.
Il y avait quand même souvent, t'as des gens qui venaient jouer des trucs, ouais, de la musique classique assez souvent, ça c'était le cas.
Non, mais il y a encore plein de groupes qui font des lives dans des émissions, des trucs comme ça quand même.
Peut-être ouais, c'est pas la majorité, on est d'accord. Enfin, bref.
En tout cas, voilà, il y a eu cette espèce de transformation et l'influence qu'ont eu, c'est la création donc des DJ à la radio. Et c'est là où ça a démarré. En 1943, il y a eu la première dance party où c'est un DJ qui passe de la musique enregistrée. Parce que ça, c'est pareil. Aujourd'hui, même si quand on était jeune, on faisait des booms, tu passes un CD,
ça, c'était déjà
normal, voilà.
Ouais, bien
sûr.
Sauf
qu'à l'époque,
ouais,
personne n'avait fait ça. C'était genre, c'était la guinguette de Ginette.
Et non, t'avais mal au genou.
Ils venaient jouer leur musique, et puis t'allais danser à ton truc, ou t'allais écouter un...
Et oui, il y avait l'orchestre sur place.
L'orchestre sur place.
Comme d'un retour vers le futur, où ils jouent sur scène.
Exactement, ouais, comme ça. Et ça a toujours continué à exister. Mais en tout cas, en 1943, il s'appelait Jimmy Savile, qui a fait deux trucs. Déjà, c'était...
À ne pas confondre avec Jimmy Somerville, quand même.
Pas la même chose. Qui se dit, tiens, je vais essayer de faire venir des gens dans un... Il loue un endroit, il puis fait venir les gens. Il installe les... C'est un des premiers à utiliser deux tourne-disques aussi, parce qu'à la radio, ils n'en utilisaient qu'un seul. Et à l'époque, c'est pas un DJ où tu vois, quand tu vas... Maintenant, si tu vas écouter, si tu regardes Tomorrowland ou des trucs comme ça, là, les morceaux, un DJ, il va mixer un morceau dans l'autre. Donc, c'est comme si c'était un seul morceau du début à la fin. À l'époque, c'était pas ça. Les gars, ils avaient leur tourne-disque, ils passent un morceau, ils l'enlèvent, ils passent 10 secondes, ils cherchent leur autre, ils mettent le suivant.
Ouais, le remix, c'était 30 secondes pour switcher
C'était une genre de playlist, quoi, un petit peu avec un gars qui la faisait. Sauf que ce gars-là, il se dit, putain, j'ai pas envie que les gens ils attendent entre deux trucs. Et donc, je vais utiliser deux tourne-disques avec un bouton pour passer de l'un à l'autre. Donc, il est mixé mixait pas ensemble, mais il avait les deux tournées. Mmh. Les gens trouvaient... Quand il a demandé un deuxième tour de disque, les gens étaient, mais c'est... pourquoi tu veux... Non, t'inquiète pas, c'est de la bonne qualité, ça va pas péter, tu vois. Donc c'était le premier à avoir fait ce truc-là, et la première fois qu'il a fait ça, l'anecdote, c'est qu'il a connecté, il a bidouillé le truc lui-même pour passer de l'un à l'autre, et il s'est pris un coup de jus, ça a pété toute l'électricité dans le truc, et il y a eu un moment où il n'y avait pas de musique... Il a perdu son effet parce que les gens se sont barrés quoi. Ouais. Donc voilà. Donc
je savais pas
donc
que là, Jimmy Somerville avait été le premier DJ quelque
Saville,
part.
Saville. Sébastien Akumasai, footeur de merde à distance. Voilà. Donc à partir des années 50, les DJ à la radio commencent à avoir une super grosse influence. C'est pas tout à fait à ce moment-là, mais un peu plus tard qu'on commence à avoir les top 20, top 30, top 50 et tout. Et en fait, ça c'est une des manières que les DJ ont une influence sur quels sont les morceaux que les gens ils écoutent. C'est que ils les choisissaient pas vraiment à l'époque, mais toutes les maisons de disques, ils allaient voir les DJ à partir de ce moment-là en leur disant tu peux me rajouter dans le top 50, écoute mon morceau et tout pour le passer, etc. Parce que les gens, bah, ils écoutaient ce qui était mis en avant par les DJ, quoi. Akumasai,
je fais mon look DJ. Non.
Et je veux dire, dans les années 50, il y a un exemple avec le rock, justement, le rock and roll, qui était un mix de rhythm and blues, gospel et country, qui à la base était plutôt. Alors en plus, le problème c'est que tu nous fais marrer, mais personne. Prends une capture d'écran pour rajouter sur le poste d'Avrous, parce que on a maintenant un Sébastien qui est complètement différent. Donc voilà, donc c'était le rock and roll à la base, c'était un truc qui était fait par qui était plutôt écouté par la population noire américaine aux US, et à travers la radio, ils ont popularisé ça, les DJ à beaucoup plus d'audience, et surtout les jeunes et une population plutôt blanche. Et donc il y a pas mal de moments comme ça où t'as de la musique qui commence dans une catégorie de population. Il y a pas mal de musiques qui ont commencé dans des clubs gays, par exemple, pratiquement le disco. Bon, ça paraît. Mais bon, le disco.
Oh là là, mais dis donc.
La house music. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui ont été poussés par ce genre de trucs.
C'est tous les genres que j'aime bien. Merde.
Bah ouais, c'est bizarre. Tu devrais te poser des questions. Ou peut-être pas, tu vois. Peut-être pas.
Ou peut-être pas.
Voilà, donc
pas.
Ça, c'est les années 50. Dans les années 60, un truc intéressant que je connaissais pas du tout, c'est que le concept de sound system en extérieur, où tu peux jouer de la musique à l'extérieur, ça a été inventé et perfectionné en Jamaïque. Et donc en gros en Jamaïque ils créaient des trucs à l'extérieur, ils faisaient des battles où t'avais deux sound systems pas loin les uns de l'autre, il y en a un qui était plus fort que celui qui était à côté, et où les gens venaient les écouter passer de la musique, et progressivement ils ont inventé le concept de MC où t'avais un gars qui était le DJ et un mec qui faisait un truc qui faisait un peu à la radio, qui était le début du rap. Oui, il parlait un petit peu par-dessus les morceaux de musique.
Ah quoi. Oui, sur la musique. Ouais.
Voilà, sachant que c'est les morceaux des années 60, hein, donc c'est pas le rap comme on imagine aujourd'hui.
Et ouais, c'est pas Eminem.
Ça peut être du rock ou ça peut être du rhythm and blues ou des trucs comme ça. Il rajoutait des paroles par-dessus, donc il parlait par-dessus ce truc-là. Et donc ils inventaient ce système-là et c'est là où est né le reggae. Le reggae et tout le concept de Rasta avec les cheveux longs et etc.
Parce ça, que c'est mouvement gay aussi, c'est ça.
Non, je sais pas trop.
Mais il a rien compris.
Bah tu dis reggae, je comprends pas.
Oh my god.
C'est pas grave. Te laisse pas couper.
On va faire une petite pause.
Il faut sortir, monsieur, maintenant.
C'est là qu'ils ont inventé ce concept de MC et le reggae et puis l'évolution de tous ces trucs-là. En même temps, et là c'est vraiment le truc où je pensais à nos deux collectionneurs favoris, enfin surtout Delta Koch là-dedans, c'est qu'il y a eu tout un truc. Donc dans les années 50-60, il y a eu la soul. Je sais pas comment dire
la
ça.
La soul, ouais.
aux États-Unis, qui a été créée aux États-Unis. Et il y a eu un espèce de sous-ensemble de ça qui n'a pas du tout marché aux US, qui était un flop. Et puis donc, il y a eu une période pendant 5 à 10 ans où tu as des groupes ou des musiciens qui ont créé des trucs, ils les ont enregistrés, mais ça n'a jamais vraiment décollé. Et puis après, ils ont arrêté. Et 5 à 10 ans après, il y a des gens en Angleterre, des DJ qui ont découvert ces trucs-là, qui ont trouvé que c'était super cool parce que c'est un rythme qui pète un peu. Et ils ont commencé, et le truc c'est que c'est une collection finie, donc du coup tu peux le collectionner et avoir éventuellement la totalité.
C'est
le
pour
truc
moi. C'est
que il n'y avait pas de liste de tous les trucs, donc.
Ah, oh, il n'y a pas Urza Gazerer.
Non, il n'y a pas Urza Gazerer. Donc tous les DJ qui passaient ces musiques-là dans des clubs un peu underground au nord de l'Angleterre, Ils allaient aux États-Unis.
Et c'est loin de là où
tu habites,
du coup ? Ou j'ai pas compris ?
C'est assez loin quand même. C'est un peu plus à l'est encore.
Il faut traverser l'océan.
C'est nord-est, mais surtout est. Surtout
t'es
est.
Pas en Angleterre.
Et donc ils allaient aux US pour trouver d'autres morceaux de la même époque qui étaient faits dans le même genre. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui en trouvait un qui était classe, c'était le truc de ouf. Il était le seul à l'avoir. Il le passait dans les clubs. Et du coup, c'est comme ça qu'il commençait à avoir la naissance des DJ de nightclub, justement. C'était un peu underground à l'époque, toujours, mais à ce moment-là. Et c'était un phénomène de ouf, un petit phénomène avec que quelques milliers de personnes qui connaissaient, parce qu'il fallait être de cette région-là. Et ça s'appelle le Northern...
C'est comme nos auditeurs.
Voilà, exactement. Ça s'appelle le Northern Soul parce que c'était... mais qui peut commencer par en anglais. Parce que c'était quelque chose...
Switch.
Pas parce que c'est du nord des US.
C'est les chœurs de ce corps.
Mais parce que c'était popularisé dans le nord en Angleterre.
Nord de l'Angleterre, ouais.
Des morceaux, si vous cherchez, il y en a un qui s'appelle Tainted Love, que vous connaissez certainement, qui est devenu très super populaire après. Tainted Love. C'était un truc qui n'a pas du tout marché quand ça a été fait aux US, mais qui a été popularisé en Angleterre à ce moment-là. Et c'est dans les premiers trucs où les gens, ils dansaient toute la nuit jusqu'à midi le lendemain, il s'arrêtait pas, quoi. Et c'est là où, j'en parle pas trop dans mon résumé ici, mais c'est là où tu commences à voir l'influence aussi des drogues dans la naissance des genres musicaux, parce qu'il y a certains genres musicaux qui marchent bien, parce que les drogues...
Qui marchaient bien avec la drogue, ouais.
Les drogues qui étaient populaires à ce moment-là, faisaient un...
Ça allait avec, quoi.
Un mix de ouf qui allait bien ensemble, ouais.
L'acide, les trucs comme ça, c'était des styles, effectivement,
ouais. Ouais, et donc du coup, alors l'acide, c'est pas à cause de ça. Donc du coup, voilà, donc je vais aller avancer un peu plus vite.
BIM
1900, mais c'est pas tout à fait à cause de ça, mais je t'ai expliqué. Parce que
comment
je pensais ça aussi, quand ils expliquent dans le bouquin. Donc on avance un peu plus. Dans les années 65, il y a un gars qui est le premier à mixer les morceaux l'un dans l'autre, qui s'appelle Terry Noël.
Il mixe tout avec Maria Carré, ou il mixe des trucs comme ça.
Ouais, voilà. Et donc j'ai bien compris ta blague. Donc c'est le premier gars qui
c'est bien que tu l'as quitté,
passe d'un morceau à l'autre, mais au lieu de couper juste jusqu'à la fin du morceau puis de démarrer l'autre au début, il commence à les mettre les uns sur les autres. Mais par contre, pour que on commence à avoir un truc qui s'appelle le beat matching, où tu les fais vraiment, où tu peux les faire aller l'un sur l'autre pendant très longtemps, ça c'est avec le disco dans les années 70. C'est un gars qui s'appelle Francis Grasso qui a inventé ça. C'est un DJ qui est considéré comme le père fondateur ou le grand-père des DJ modernes aujourd'hui, parce qu'il a inventé cette technique-là. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'aujourd'hui, la musique électronique...
Mange bien aussi, je crois.
C'est les beats que tu as... Donc, quand tu fais du beat matching, ils sont faits de manière électronique, donc ils tombent forcément toujours à la même vitesse.
Ouais,
lui, il faisait ça sur du disco qui était enregistré dans des studios avec un batteur, tu vois.
Et donc, à l'oreille, il faisait ça.
Donc, il faisait tout ça à l'oreille. Et puis, c'est pas régulier, parce que si c'est un humain qui fait la batterie, tu vois, c'est pas toujours précis, quoi. Et donc, lui, il était réputé pour que ça marche toujours. Il pouvait les garder plus longtemps l'un sur l'autre, les deux morceaux, quoi.
Wow.
Donc, voilà. Il y a un moment donné, et c'est certainement là où sont nés tes potes d'Avrouz, dont tu parlais tout à l'heure. Là, il y a un mec qui s'appelle David Mancuso, qui a créé un...
Ton cul quoi ?
Qui était le premier à se... on s'en fout, c'est le nom du gars. Qui était le premier à créer un endroit où tu peux venir écouter de la musique, qui s'appelait The Loft, le Loft. Et qui était focus sur la qualité.
Sur les câbles
HDMI. L'expérience et la qualité, voilà.
Câble HDMI, câble audio.
Doré à l'enfer.
Et donc, lui et un autre gars aussi, donc, tous les clubs qui ont été faits à partir de ce moment-là, qui ont permis de développer le truc encore mieux, et la qualité du son, ça a été basé sur ce que lui, il a mis en place dans son truc perso. Et il était consultant, il allait dans les clubs pour démarrer des trucs. Voilà, donc je passe quelques détails. Le hip-hop, le hip-hop, c'est assez marrant, ça a été aussi créé, c'est à la même époque que le disco, le funk et tous ces trucs-là. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y a des gens qui faisaient le breakdancing, que vous connaissez grâce au hip-hop.
Ah tiens, ben oui.
Le breakdancing, ça a
été... Non, moi je connais ça grâce à une Australienne.
Grâce au JO.
Ah putain.
Ça a été inventé avant le hip-hop, et en fait, gros, les gens, ils écoutaient les morceaux qui existaient déjà, et dedans il y a le break, qui est une partie du morceau où ils dansaient justement cette danse là-dessus.
Ouais,
et les gens qui ont inventé le hip-hop, il y a un gars qui s'appelle DJ Kool Herc, qui était le premier à avoir commencé à faire ça. C'est que ils avaient inventé une technique où ils prenaient deux fois le même disque, et quand le break il arrivait, et ben il passait, quand le break il s'arrêtait sur le premier disque, ils étaient prêts sur le deuxième, ils le relançaient, ils switchaient pour que ça répète en loop. En boucle le break. Et donc les gens, ils
pouvaient... Donc t'avais tout le temps le break. Dessus. Ouais, voilà. D'accord. Ouais.
Et puis progressivement, ils ont commencé à rapper par-dessus aussi. Et c'est comme ça qu'est né le hip-hop, le rap et tout. Et la technique du scratching, c'est un gars que vous avez certainement déjà entendu le nom, qui s'appelle Grandmaster Flash. qui a le premier à utiliser le scratching pour démarrer un morceau.
Et tu pouvais pas d'ailleurs utiliser la technique sur iPad et iPhone, je crois, parce que Steve Jobs était
contre. Parce que ça n'existait pas encore à l'époque. voilà. Dans les années 70, la house music.
Ah oui, Flash.
Okay, la house music qui a été inventée par un gars qui s'appelle Frankie Knuckles.
Tu sais pourquoi house? Parce que c'est dans la maison.
Alors justement, je vais expliquer ce truc-là. Donc ce gars-là, c'était un DJ qui était un DJ de disco à la base de New York et qui est allé à Chicago parce que ça a été inventé à Chicago la house. Et il était dans une DJ résident dans une boîte qui s'appelait The Warehouse. Et en gros, à côté de ça, il y a un magasin qui avait ouvert. Parce que tous les gens, c'était un super DJ, tous les gens, ils allaient là-bas, ils découvraient des nouveaux morceaux et tout. Et après, c'était là, putain, où est-ce que je peux l'acheter? Comment je peux faire pour l'écouter, etc. Il y a un gars qui a créé un magasin.
C'est le début des liens affiliés.
Voilà, où il disait.
Les liens affiliés Amazon, là-bas.
Donc, ils passaient pas mal de. Enfin, ils avaient pas mal de disques qu'ils vendaient, mais ceux que tu avais pu entendre à la warehouse, ils mettaient. You've heard this in the warehouse. Donc, vous avez entendu ça à la warehouse. Et au moment donné, c'est devenu juste warehouse, et après, ils ont dit house. Et c'est comme ça que la house music, c'est une des raisons pour laquelle ça s'appelle house music. L'autre, c'est aussi parce qu'ils avaient en fonction de quel club où t'allais, tu faisais partie d'une house différente, une maison, tu vois, et puis tu te reconnaissais en fonction de comment t'étais habillé, etc. Mais
comme Harry Potter, quoi, un peu.
Voilà, exactement, comme Harry Potter. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Et la house, tout est parti de la house. Donc tous les genres qu'on a aujourd'hui, c'est parti de là. Ça a évolué d'abord du disco. Au bout d'un moment, le disco, c'était trop chiant pour les gens. Donc, ils ont fait un truc qui s'appelle le disco high energy. Donc, à énergie un peu plus rapide, commencer à rajouter des trucs électroniques.
Plus de BPM.
Voilà. Ouais. Et puis surtout ils les accéléraient, ils les ralentissaient et puis rajoutaient des beats dessus électroniques. Et ensuite, il y a eu un genre qui s'appelait juste high energy qui a évolué en house. Et après, tous les trucs qu'on connaît aujourd'hui, la techno et tous ces trucs-là. La techno qui, dans les années 80...
Ah justement, c'est quand la techno
La techno, 80, c'est les années 80, à Détroit. Donc aussi...
Detroit. Detroit.
Aussi aux États-Unis, Detroit. Et c'était inspiré de musique électronique, je crois que c'était en Allemagne. Je me rappelle plus du nom exactement, mais c'était inspiré d'un genre qui venait de l l'Europe. Et ça fait souvent des allers-retours comme ça, des trucs qui sont inventés en Europe, repris aux US. Et
après, la nouvelle évolution... On ne dit pas souvent que Jean-Michel Jarre a été un des fondateurs de la musique électronique, justement?
Alors peut-être, ouais, mais ils n'en parlent pas dans le bouquin, donc... Donc. David Guetta, mais pas de Jean-Michel Jarre. Je suis désolé. je sens triste. qu'il est blessé là.
Je suis triste.
Non, mais c'était un style très particulier. C'est comme un peu Vangelis aussi, qui était dans le même style, on va dire.
Ouais. Synthétiseur.
Ouais.
Ouais, exactement.
Parce que la techno, c'est quoi la définition de techno? C'est uniquement fait de manière électronique, c'est ça?
Alors c'est uniquement fait de manière électronique, mais c'est comme n'importe quel genre. C'est le. T'as un beat particulier et t'as certains instruments particuliers. C'est-à-dire que la manière de créer la musique, les instruments qui sont utilisés dedans, la manière dont ils sont utilisés, sont cohérents, tu vois. Donc c'est ça qui définit le même genre.
Parce que j'ai toujours été une grosse quichasse à identifier les différents styles. Tu as les grands.
Des fois, c'est pas évident.
Machin et tout, mais dans l'électro, il y a 12 000 sous-genres, là. C'est super compliqué.
Ouais, mais dans le métal, il y a 12 000 sous-genres aussi. Enfin, c'est la musique en général. C'est très. Tu vois. C'est très arborescent, on va dire.
Ouais, et il y a des vidéos sur YouTube, tu peux regarder des vidéos où ils te disent les genres, quels sont les genres musicaux et des exemples. Comme ça, tu peux te donner un peu, t'as un peu avoir une idée. Ils expliquent quelles sont les différences. Acid House, je vais parler de celui-là parce que tu en as parlé tout à l'heure. Ça a été créé par un accident, des gens. Donc, parce qu'ils utilisaient des synthétiseurs, tout ça. C'était la musique électronique, mais qui était faite. Qui était faite avec des appareils physiques, quoi. C'était pas sur ordinateur à ce moment-là.
Ouais.
Ils utilisaient un synthétiseur qui est assez utilisé à ce moment-là, qui c'est le Roland TB-303, le 303, et qu'ils utilisaient justement pour rajouter par-dessus le disco. C'est comme ça qu'ils ont créé la house et tout. Et eux, ils expliquent, il y a une interview dans le bouquin, ils disent en gros, on savait pas comment utiliser le truc. Puis on a tourné les boutons dans un sens, puis ça fait un son super chelou, un peu acide. Et c'est pour ça que ça s'appelle Acid House, parce que c'est un son qui est plus acide que. Tu vois, c'est tout déformé, etc.
C'est quoi un son acide?
Bah, c'est un son qui.
T'as jamais entendu, quoi.
C'est un peu les oreilles, tu vois.
Mais c'est les trucs où tu. C'est vrai, comme il dit, tu mets le potard à fond sur un truc et ça fait des effets un peu de.
Et du coup,
belle explication d'Akuma
Sai. Par accident, le truc, ils auraient pas dû l'utiliser comme ça.
C'est ma spécialité.
C'est pas comme ça que c'était prévu d'utiliser ce synthétiseur, mais ils utilisent comme ça. Ils trouvent ça cool, ils sont 2-3 à le faire, ce truc-là. Ils font tout un album avec quelques morceaux. Ils disent, putain, je sais pas si ça va marcher.
Ça fait chier,
ils l'emmènent chez un DJ qu'ils connaissaient. Il passe le premier morceau, les gens ils partent de la piste de danse. Mais le DJ en question, lui, il était connu pour, il s'en fout de ce que les gens ils veulent, il leur passe, il trouve que c'est cool, il leur passe le morceau jusqu'à ce qu'ils kiffent. Donc il a passé plusieurs fois dans la soirée, les gens ils partaient, ils revenaient, jusqu'à la fin où ils sont tous bourrés avec sous drogue et tout.
Ouais,
et
là c'est ça, on s'en fout.
Ça part en sucette et tout, et c'est comme ça que ce genre il est né. Et après du coup les autres ont fait le même truc, tu vois, pour répondre.
Pourquoi faut jamais lâcher l'affaire, quoi.
Moi je trouve qu'il y a plein de musiques qui demandent apprentissage, hein. C'est bizarre,
des acquired taste.
Il y a des musiques que t'aimes tout de suite, mais il y a des musiques il te faut du temps, et après tu
le jazz c'est une musique, je suis sûr qu'il faut vachement de temps. Moi j'y suis pas encore, par exemple.
C'est possible, hein.
Ben, on peut parler de Mathieu Mézil, puisqu'on en là c'est le moment où Mathieu Mézil, un jour il faudrait qu'il apprenne à écouter autre chose que classique, il faudrait un peu, tu vois, d'ouverture, voilà, d'esprit, de temps.
Mais c'est bon, bam, allez.
Et c'est marrant d'ailleurs, on parle d'une musique que moi j'adore et que j'ai détesté la première fois que j'ai entendu, de Hans Zimmer, Interstellar.
Ah t'as pas aimé Interstellar?
La première fois que j'ai entendu, je me suis dit, c'est quoi ce truc chelou? Ça crée un mal-être chez moi.
Une dissonance dans ta
vie. Ça crée une ambiance. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Et maintenant, j'adore. Mais c'est marrant ce que vous dites, comme quand on peut commencer sur une musique qu'on n'aime pas. Bon, ensuite, ce que tu dis, c'était surtout grâce à la drogue et l'alcool. Donc peut-être que je me suis drogué après, je ne me souviens plus.
En tout cas, dans cette soirée-là, mais après, voilà. Après, ça c'est parti.
Cette soirée-là.
Et les gens, du coup, ont essayé de reproduire ce son avec le même synthétiseur. Et c'est pour ça que c'est comme ça que tu as un genre musical qui apparaît, en tout cas en musique électronique. C'est les gens, il y a le premier gars qui fait un truc.
Mais là, c'est bien un instrument particulier, c'est ça, ou une sonorité particulière, tu vois.
Voilà, c'est ça. Mais même aujourd'hui, les synthétiseurs, les 909 et 808 et tout, pour certains genres musicaux, genre moi, j'utilise ça quand j'utilise un 909, tu vois, pour certains sons de base.
Un
908, c'est le drum de Roland, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, dans les années 80, c'est surtout les rave parties qui démarrent, les trucs un peu illégaux au début. C'est un mix de house music et de techno. Et dans ce truc-là, en faisant ces trucs-là, parce que les gens, les DJ, une fois qu'ils ont un peu épuisé tous les trucs, ils parlent un peu de la partie production, disons qu'ils créent leur musique, mais en gros, ils mixent des trucs, ils disent « c'est sympa, ça devient un nouveau genre », et après, ils créent un morceau qui reproduit ce qu'ils avaient mixé en live, et puis ça redevient un genre. Donc, dans les années 80, avec les raves, apparaissent jungle et drum and bass, qui sont d'autres sous-genres, entre guillemets. Dans les années 90, la trance,
j'adore la trance.
Avec Paul Van Dyk, et ça les gens aiment beaucoup parce que c'est super positif comme musique, c'est uplifting comme ils disent en anglais là, et c'est super mélodique, etc. Donc les gens ils aiment beaucoup grâce à ça.
C'est épique.
Un autre truc qui s'appelle le Big Beat, B-E-A-T, juste pour les Français qui
bien sûr, bien sûr.
Pour donner un exemple, c'est Chemical Brothers par exemple.
Ah, j'adore.
Prodigy,
ça apparaît dans les années 90 aussi. Dans les années 2000, les années 2000, c'est la popularisation de tous ces genres-là, donc de la musique électronique. Et ça, c'est fait par
en général.
Les trois plus grands, enfin les trois qui sont plus connus que j'ai pris dans le bouquin, c'est Tiësto, David Guetta et Armin van Buuren. Et en fait, ce qu'ils font, ils le rendent populaire parce qu'ils prennent de la trance et de la house et ils le mixent avec de la pop. Et c'est comme ça que du coup, s'ouvre à beaucoup plus de gens et qu'à partir de ce moment-là, les DJ qui sont très bons, ils peuvent devenir des superstars parce que justement, ils touchent beaucoup plus de monde, quoi.
Et comment il s'appelle le super DJ qui s'est suicidé
évidemment, maintenant que tu me dis le truc, je
m'en vais. Ben,
parce qu'il était c'est plus tard.
Ah ouais, parce qu'il était super connu aussi comme référence aussi.
J'ai Marshmello dans la tête, mais c'est pas Marshmello.
Non, c'est pas ça.
Bon, je retrouverai.
Avicii.
Il était pas cité dans les listes, parce que il est souvent cité comme, je sais pas s'il était si excellent que ça, parce que Armin van Buuren, tu l'entends souvent, Guetta il est quand même souvent critiqué comme faisant de la soupe un peu pop, mais de toute façon c'est dès que t'es pop,
parce qu'il est tellement célèbre.
Mais d'un côté c'est en faisant ce genre de truc là qu'il a rendu le truc beaucoup plus populaire, tu vois, et que justement dans les années 2010 ça, je pense qu'on
dès que tu rends accessible les trucs, c'est genre.
C'est le truc typique, dès que c'est mainstream.
Et voilà.
Après, tu vois, le truc, c'est que. Alors, Charmy, juste dans les années 2010, à partir de 2010, c'est là où on commence à avoir les festivals de.
Ouais, ça EDM, devient vraiment mainstream.
EDM, c'est Electronic Dance Music, donc ça pourrait avoir n'importe quelle musique de danse qui est électronique. Mais c'est le genre qui décrit un peu ce truc-là. David Guetta, Armin van Buuren, tout ça. Et c'est ça qui passe surtout dans les premiers festivals.
Ouais, bien
genre
sûr.
Tomorrowland, par exemple, c'était un des premiers.
Ah, j'adore.
De plus en plus.
Moi, je regarde chaque année.
Moi, j'aimerais bien.
Je ne vais pas, mais je regarde.
Mais
j'aimerais bien regarder. Aussi, c'est bien. Je pense que ça peut être vraiment cool.
Alors, juste pour ouvrir une parenthèse, mon petit Molta, merci beaucoup pour cette rétrospective. Déjà, c'est génial. Moi, j'ai découvert un style qui s'appelle la mélodique techno, que j'adore, voilà, avec Warhawks, où, en fait, ils mixent avec des instruments, des vrais instruments...
Il paraît qu'on dit Voracle.
Tous les jours. Si c'est vrai, bon, bref, Voracle, Warhawks, whatever. Et, en fait, ils composent une musique comme si c'était une musique classique, mais ils mettent des beats et des sonorités et des arrangements techno, et je trouve ça énorme.
Il y a une formation
et encore une fois, ça...
classique, ce mec-là, d'ailleurs, en français. Et Tomorrowland, d'ailleurs, l'intro est faite par Hans Zimmer, la musique de Tomorrowland.
Ah ouais.
Non, mais c'est clair, je pense que maintenant, il y a quand même un gros... ça se regroupe vachement avec... Enfin, toute la musique, de toute façon, elle est même base. Musique classique, électronique, tout ce que tu veux, c'est toujours les mêmes bases à l'origine, dans la structure et tout ça, quoi. Mais je pense que pendant très longtemps, la musique électronique, pour les gens qui faisaient la musique classique, c'était vu genre, c'est de la merde, un peu sous merde, comme ça. Et ils commencent à regrouper un petit peu, je pense aussi, parce qu'ils voient que c'est le truc qui est le plus populaire, tu vois. Donc ils se rattachent
au
truc.
C'est là où t'as le souci.
C'est comme ça que naissent des nouveaux genres et tout. Hein.
Alors que moi, je trouve que la musique électronique, c'est ce qu'il y a de plus proche de la musique classique, parce que c'est là où t'as autant de possibilités, tu vois, en termes d'harmonie, d'harmonique, tu vois, de type de son. Parce que quand tu fais de la guitare électrique, je pense que t'es quand même assez limité sur le type de son et les capacités des instruments. La musique électronique, tu peux potentiellement...
T'as tous les instruments.
Tu peux faire, donc la musique classique, souvent, ils disent, t'as toute cette panoplie d'instruments, de complexité, tu vois, de mixage des différents dans un orchestre. J'ai l'impression qu'on peut faire la même chose sur la musique électronique. Donc, peut-être qu'ils sont marqués par les trucs minimalistes, parce qu'il y a des trucs ultra extrêmes hein, en musique électronique, mais en musique classique aussi. J'ai déjà entendu des trucs supra chelous faits avec des instruments classiques. Quoi. Donc, c'est marrant cette ségrégation, en fait, cette volonté. Tiens, on va revenir sur le connard arrogant du mec qui dit juste la musique classique, parce que je sais pas quoi c'est lié.
Il y a rien d'autre.
Je sais pas quoi c'est lié, ce dénigrement de la musique électronique.
Ouais, quoi. Mais c'est aussi. Je pense qu'il y a le. Selon toi tu parles là, c'est le côté un peu élitiste, tu vois, c'est genre la musique classique, c'est pur, c'est je sais pas quoi, tu vois, c'est fait avec des vrais instruments et tout ça. Mais je pense que même quand tu prends tous les genres qui existent aujourd'hui là, et d'ailleurs il y en a pas mal qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, la house telle qu'elle était faite à Chicago dans les années 80, il y a toujours des gens qui produisent des trucs similaires avec un petit peu des évolutions, mais ça existe encore. Il y a des gens qui font de la trance encore.
Il y en a qui ont toujours été spécialisés pour être décalés. Hein. Il y avait un groupe qui s'appelait Atari Teenage Riot qui a été super connu pour. C'est de la musique qui est électronique, mais qui est très old school parce qu'ils font ça justement avec un Atari. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Et donc ils ont utilisé des vieux Atari pour faire la zik pendant des années et des années. Ils ont un son qui est caractéristique. Tu écoutez ça, vous verrez par curiosité. Atari Teenage Riot, c'est excellent. C'est assez violent comme musique, hein, mais c'est super rigolo parce que ça a vraiment un style marqué, quoi.
Et en tout cas, ouais, non, mais. Et puis d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai une petite conclusion sur le truc, mais je pense que ça pourrait être intéressant si les gens qui nous écoutent, les 4,5, comme disait David, si vous pouvez mettre, genre, quel est votre genre de musique préférée, tu vois, genre, commenter le truc, ça pourrait être sympa. Un truc qui est vraiment intéressant, il parle dans le bouquin, c'est que il y a beaucoup d'innovations dans la musique. Qui est plutôt la musique sur laquelle tu vas te danser, parce que les DJ, forcément, c'est des trucs live. Toutes les innovations sont drivées par les DJ. C'est le fait de pouvoir mixer des trucs l'un dans l'autre, le fait de prendre de rendre accessibles tous ces synthétiseurs qui étaient physiques en électronique, ça a été drivé par ça aussi. Et beaucoup d'innovations en termes de qualité du son aussi, qui ont ensuite été reprises dans les trucs que vous pouvez acheter pour chez vous, quoi. Vous pouvez demander à David si jamais vous voulez un truc qui marchera très bien, avec des câbles en or. Mais c'est donc, ce qu'il expliquait, c'est que des genres musicaux, souvent ce qui se passe, les gros, genre disco, rock, qui sont devenus super connus, ils commencent toujours en underground, quelque part. C'est un genre qui ressemble pas forcément ce qui est au tout début et pas forcément ce qui est à la fin, mais ça commence à un tout petit truc, un peu un sous-genre comme ça qui est popularisé par un groupe de personnes, et d'un coup il y a un DJ ou un groupe
qui
de DJ qui va
rendre transformé.
Ça va devenir de plus en plus populaire jusqu'à un point où il y a les élites qui écoutent. Donc à un moment donné, ils parlent de clubs à Paris, des premiers boîtes de nuit, où t'as des gens de l'État, tu vois, genre Pompidou. C'est des endroits où vous pouvez voir Pompidou, machin.
Je vois bien Pompidou danser sur de la house, tu vois.
C'est pas de la house, ouais, il faut remettre le truc dans le contexte. Et encore une fois, les DJ, ils passaient d'autres musiques, du rock, du funk, des trucs comme ça. Et du coup, il y a toujours un peu ce besoin que... pour qu'il y ait une innovation, d'après les deux journalistes qui ont écrit le bouquin, pour qu'il y ait une innovation dans la musique comme ça aujourd'hui, la dance, il faut que ça démarre d'abord avec un petit groupe, et ensuite, une fois que ça touche...
Est-ce que c'est toujours vrai, ça? Est-ce que c'est toujours vrai? Parce que tu vois...
à l'époque, c'était toujours le cas.
Mais bien sûr, mais parce que justement, c'était les mecs qui démocratisaient, c'était eux qui avaient la culture et la connaissance, donc c'était eux qui pouvaient le faire. Mais maintenant qu'on a un truc où on est tous hyper connectés et tout ça, finalement, tu te dis qu'un petit gars qui fait son truc dans son garage et qui est sympa, il peut être, tu vois, créer son propre style et être diffusé sans qu'il y ait justement ces mecs qui étaient là, qui étaient en fait les
gatekeepers.
Ouais, voilà, qui partageaient la connaissance, quoi.
Les trafics d'influence aussi, tu parlais des studios. Dans c'est sûr. Qui emmenaient ils devaient graisser la patte au DJ pour qu'il passe tel ou tel disque, tu vois. Donc, ils avaient un pouvoir de rendre populaire certaines choses ou pas, quoi. Donc, effectivement, Internet a permis de casser ça d'une certaine manière, même si ensuite, tu as tous les algos de mise en avant qui sont contrôlés.
Ouais, ça revient, quoi. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, les choses reviennent.
C'est ça le truc,
cycle.
C'est qu'en fait, ouais, en fait quand Spotify et Deezer et tous ces trucs-là, c'est mine de rien, genre moi quand j'ai commencé à mixer, je me dis bon, il me faut des morceaux de musique, tu fais ta première passe dessus, tu trouves facilement des trucs que tu connaissais pas. Mais aller au-delà de cette première phase et trouver des trucs, il faut écouter tellement de morceaux différents que la majorité des gens écoutent la même chose, écoutent les trucs, écoutent les trucs qui sont poussés par ces plateformes comme les maisons de disques, tu vois, ou la radio ou des trucs comme ça, quoi. Et pendant très longtemps, les maisons de disques, ils aimaient pas trop les DJ, ils comprenaient pas trop le truc et tout. Et à un moment donné, ils ont fini par se rendre compte et les DJ sont organisés dans des espèces de... c'est pas le lobby, c'est pas le bon terme, mais dans des groupes qui ensuite négociaient avec les maisons de disques pour justement savoir quels morceaux passaient, etc. quoi. Donc il y a pas mal de trucs comme ça qui ont été créés aussi. Dans les années, je sais pas, 80-90.
Ouais, pas des syndicats, mais bon, on voit le truc.
Ouais,
quoi,
oui,
truc pour représenter les droits des mecs, quoi.
Mais pour revenir sur la qualité, moi, pourquoi j'aime beaucoup l'électro dans un système d'une salle à 400 000 euros, c'est produit de manière entièrement artificielle, donc tu as un son parfait. C'est-à-dire que, contrairement à de la musique classique où tu as de la prise de son, donc en fait...
Tu as de l'analogique à un moment donné.
De l'analogique, alors des fois, c'est sympa. Moi, il y a des enregistrements, il y a des gens qui détestent ça. Tu peux entendre le mec qui caresse le piano, tu vois, tu vas entendre le bruit du marteau et tout. Donc moi, j'aime bien parce que du coup, c'est ce que je cherche aussi des fois sur certaines prises de son, une espèce d'immersion. Mais sur la musique électronique, comme le son, il est pur... Il est absolument pur. Je trouve que ça augmente encore plus ma capacité d'être déconnecté parce que du coup, tu vois, j'ai pas cette notion de ah, j'entends l'imperfection qui me ramène.
De bruit bizarre,
je suis vraiment complètement projeté dans un autre univers. Donc, j'adore pour ça la musique électro et surtout, comme tu disais, Multa, la trance. Je pense qu'elle porte bien son don. Elle a tendance à vraiment me faire voyager ce type de musique-là.
Mais d'ailleurs, tu sais, c'est assez marrant que tu parles de la partie de la musique, la version organique et la version, je sais pas comment,
analogique
et digitale. C'est que aujourd'hui, donc par exemple, les trucs qui sont dans les synthétiseurs dont je parlais, là, 909 et 808, ils ont été enregistrés de manière analogique et on les utilise encore aujourd'hui parce que personne n'est capable de reproduire un son comme ça de manière pure électronique. Donc les trucs qui sont utilisés par la majorité des DJ, souvent, dedans, il y a de l'analogique parce que
les circuits utilisés donnent une signature particulière.
Exactement. Et en fait, d'ailleurs, il y a pas mal de DJ. Il y a Deadmau5. Il a un mur entier de machines analogiques qu'il utilise pour créer la majorité de ses sons. Il les fait avec des
potards
et tout ça, quoi.
Et c'est pour ça que tu disais, et c'est intéressant, parce que tu vois, tu parlais de ça, Davrous, par rapport, par exemple, aux guitares. Mais finalement, les guitares, quand tu regardes, j'ai regardé récemment plein de reportages sur les mecs qui sont dans les groupes de métal, par exemple. Et en fait, ils ont, tu sais, leurs fameuses pédales, et en fait, ils ont des pédales d'effet, des trucs de fou, quoi. Les mecs dans les groupes un peu connus, ils ont en fait des trucs où ils enchaînent, je sais pas, 20 pédales différentes, quoi.
Et pour avoir une signature de son très, très spécifique.
Exactement.
C'est ça. Ouais.
Ouais, et du coup, ça ressemble finalement un peu, quand on dit la musique, c'est tout le temps pareil, comme disait Multa, c'est un peu vrai partout, parce que tu vois, même les mecs, pour les guitares, ils vont faire leur tuning
comme
de son.
Comme dans le classique, où les gens arrivent à identifier soi-disant Stradivarius ou des trucs comme ça, ouais, des signatures assez spécifiques. Mais c'est marrant, parce qu'à nouveau, moi, on m'avait offert le master classe de Zimmer. Et donc il expliquait que à cause de ces trucs maintenant, les banques de sons que j'utilise ou la musique classique, on est un peu tous les mêmes. Il disait j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose parce que j'ai toujours les mêmes instruments. C'est, il entend toujours la même signature. Donc il disait le top, c'est de créer ses propres instruments. Donc il me faisait marrer parce qu'il disait par exemple moi j'ai pris tel grand violoniste qui a tel violon et je le sens. Et tu veux. Bah ouais bien sûr, bah on va tous
bien
faire
sûr.
Ça.
Ouais,
on a tous accès à comme ça voilà.
Mais c'est vrai que du coup de ce que tu décris Akuma-sai, c'est que il faut réussir à avoir une signature un peu différente, même au niveau des instruments, quoi. Donc c'est marrant ce que tu dis, Molta, sur le fait qu'ils n'avaient pas réussi à finalement reproduire exactement ce même. Ça se joue à pas grand chose des fois, mais tu joues un instrument, tu dis non, c'est pas ça, ça marche pas, tu vois. C'est quasiment ça, mais ça marche pas, quoi.
Et je pense que la différence entre, enfin, ce que tu voulais dire, Davros, c'est pas forcément que c'est la musique électronique qui permet d'avoir un truc proche de la musique classique. Je pense que la différence entre une guitare, tu peux mettre autant d'effets que tu veux, c'est un instrument. Dans un orchestre de musique classique, t'as plein d'instruments. C'est ça qui rajoute un peu la complexité que t'aimes bien. Dans la musique électronique, t'es pas limité. Tu peux rajouter une guitare qui est comme ça, tu peux rajouter un milliard de trucs, et donc ça te permet d'avoir une complexité plus poussée. Je pense que c'est ça que t'aimes bien, en fait.
Moi, j'aime bien la construction, effectivement, des instruments qui se répondent les uns aux autres. Donc, on peut le retrouver. Moi, il y a dans le métal, je sais que Iron Maiden, j'aime bien parce qu'il y a des parties très mélodiques comme ça, tu vois. Moi, je suis plutôt sensible que les trucs un peu bourrins. Mais j'ai jamais eu l'impression de retrouver cette même complexité que dans la musique classique ou électro, en fait. Mais peut-être que j'ai pas écouté les bonnes choses en rock ou métal.
Ben voilà,
okay.
En tout cas.
Merci, messieurs. Super, merci, Molta. C'était très cool. Et on va passer aux recommandations. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned out. Et alors, je vais passer la parole à Davos, vu qu'il n'a pas mis dans le fichier.
Non, parce que j'avais pas de recommandation.
Ouais, il n'y a pas de raison, on s'en branle. Ta gueule. Ferme ta gueule.
Je me suis dit, je vais faire une contre-recommandation.
Mais tu aurais quand même pu la noter, ta fucking contre.
Non, mais elle n'est pas dure à trouver. J'ai suivi pendant longtemps une espèce de hype sur le jeu vidéo autour de Hellblade 2, qui était un des premiers jeux à annoncer le Unreal Engine 5, qui était le premier jeu montré à l'annonce de la Xbox Series X pendant une conférence de jeu. Tout le monde était hypé en disant « c'est pas possible, que ça soit du temps réel, c'est dingue ». Et donc c'était le début de la présentation du moteur avec Nanite, Lumen, etc. Tu vois, donc... Et au fur et à mesure, ils ont passé des séquences et tout, ça avait l'air vraiment top. Et je me suis dit, putain, faut que je teste ce jeu, c'est pas mon style de jeu, mais c'était, vous me connaissez, c'est tellement beau, faut que je teste.
Et c'est tellement de la merde, ce jeu.
C'est un truc de débile, à quel point c'est de la merde. Comment on a pu investir autant de temps, autant de com dessus, tu vois, pour faire un putain de walking simulator. Alors certes, beau, mais d'une chiantitude absolue, en fait. Dans ces cas-là, je vais me regarder une série sur Marvel.
C'est un démonstrateur graphique, quoi.
Ouais, c'est un benchmark géant, en fait.
C'est nul.
Et grosse déception. J'ai essayé, hein. Je me suis dit, non, mais après 2 heures, il va se passer un truc. Et arrivé à 2h30, je commence à être vieux.
Mais moi, j'aime trop, mourir.
J'ai pas envie de
demie.
Mourir en jouant à ce jeu de merde, tu vois. Donc, je veux vous sauver la vie.
L'intro, elle met 5h30 pour monter, là, sur le mur, au début. Mais moi, c'est fini. Tu me fais pas ça.
Non, mais à la limite, si ça sert quelque chose. Mais j'ai l'impression que
ça sert à rien du tout, en fait.
C'est
ça me sert à me faire chier.
Grosse déception. Bon, heureusement, c'est gratuit pour nous parce qu'on nous offre le Xbox Game Pass Ultimate, donc j'ai rien payé.
Mais plus pour l'instant.
Ouais, on nous offrait.
Ouais, mais tous les ans ils font ça, et tous les ans on gueule, et tous les ans ils nous le redonnent. Donc, parce qu'ils savent très bien que vu qu'on n'est pas les leaders, même on est loin d'être les leaders sur le truc, ils disent, vous êtes sûr? Parce que moi je me souviens, il y avait eu un thread interne, vous voulez être sûr ou vous voulez plus nous offrir le truc? Parce que moi j'ai rien à branler, je joue que sur le PlayStation après. Non, mais le prends pas mal, prends ton Game Pass.
Et... Déconne pas, Robert, déconne pas, ça va.
Donc ne jouez pas Hellblade 2.
C'est une très bonne non-recommandation qui aurait pu être notée dans le fichier. Mon petit Molta.
Alors, moi, je recommande une série qui est déjà la saison 3. Donc, j'ai découvert juste récemment sur Apple TV, qui s'appelle Slow Horses. Et c'est une série qui se passe en Angleterre, dans le MI5.
Filmé au ralenti.
Sécurité... comment c'est là? Bref, c'est lancé.
MI5,
ouais. Les services de sécurité de la majesté, ou je sais pas quoi. Et en gros, ça se concentre sur une équipe qui est un peu les losers, qui ont merdé à un moment donné, et ils les foutent dans un autre endroit super loin et tout, avec un gars qui est un peu un agent à la retraite, qui était super bon, mais on sait pas trop.
Moi, j'aime bien l'acteur.
L'acteur, il est vraiment cool. Le mec, il est...
C'est un peu les mecs, au placard, quoi.
Mecs au placard, mais qui quand même... c'est tous un peu des... Ils ont merdé à un moment donné, mais ils sont quand même pas trop mauvais. Ils sont quand même mauvais, mais ils arrivent à résoudre des cas. Donc chaque saison, c'est un truc qui se passe et puis ils essaient de le résoudre, et au milieu ils pètent le truc, ça part en couille et tout. C'est assez marrant, franchement, à regarder, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est sur Apple
TV. Merci. Et c'est Slow Horses.
Slow Horses.
Et mon petit Akuma Sai.
Ouais. Eh ben, moi, j'ai testé un truc d'IA, parce qu'en ce moment, bon, c'est pas mal la mode, de toute façon, et j'avais envie de tester ce truc.
Ouais, non.
C'est vrai. Ben, vous avez eu Grok, là, d'ailleurs, qui est sorti, là, qui fait toute une histoire.
C'est n'importe quoi.
C'est fou. Hein.
Le copyright, rien à foutre.
Ouais, hein, ouais, bah, à la mode. C'est quoi l'histoire? Alors, Grok, en fait, c'est le truc qui a été créé par la boîte de Musk, tu sais, qui est XAI, là. Et en fait, si t'as un compte premium sur X, tu peux utiliser Grok pour faire des générations.
Mmh. Et... Mais tu peux lui dire de mettre Mickey qui se fait fister par Dingo, il n'y a aucun problème.
Aucun problème,
ça marche. Ils ont zéro problème.
Ouais. Mmh. Bref,
c'était... Mais j'ai pas testé ça, en fait. J'ai testé un autre truc qui permet de faire du deepfake, voilà, qui s'appelle Deep Live Cam.
C'est complètement ouf.
Donc j'ai montré aux copains des petites vidéos où je faisais le couillon. C'est assez
avec
balèze quand même.
Dessus. Moi je pense qu'on doit avoir des droits.
Voilà.
On va payer.
C'est ça.
Ouais, je pense que copyright n'en est pas bon. Hein.
Non mais l'outil il est vraiment impressionnant. Alors il va utiliser en fait plusieurs modèles d'IA spécialisés. Donc un qui est spécialisé pour la reconnaissance de visage, parce que vous avez vu, on fout des images un peu pourraves à la con comme ça vite fait, et il est super balèze pour faire justement un mapping entre la photo et le visage, quoi. C'est vraiment fou. Et le truc,
ouais,
en plus, c'est que avec du matériel lambda, quoi, il y a rien de particulier. J'ai un PC qui marche bien, mais voilà, il y a rien de plus. Et du coup, on peut faire ça en temps réel. Parce que l'outil il propose un support des GPU. Alors il y a plein de systèmes. Moi j'utilise CUDA avec ma Nvidia.
Nvidia, ouais.
Et du coup ça marche hyper bien. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et tu te dis bah ouais, si maintenant on savait qu'on pouvait faire ça sans problème quand on avait un peu d'équipement, des choses comme ça. Mais maintenant, si le lambda il peut faire des conneries comme
avant,
ça
il fallait,
très facilement.
Faire un entraînement et tout, c'était super chiant. En fait, t'avais plein, enfin, ouais. C'était pas accessible.
Là, c'est clic clic clic.
Là,
ouais.
De ce que je
là
vois
c'est
sur
assez
le
plug and play,
partage,
quoi.
Ouais, c'est quasiment n'importe qui peut le faire facilement. Faut ouais. Juste une bonne bécane, j'imagine, pour que ça.
C'est ça, ouais.
Réel, quoi. Mmh.
Mais ouais,
et il va falloir se préparer, les copains, et vous, nos chers auditeurs, toutes les vidéos que vous allez voir sur Internet, par défaut maintenant, il ne faut pas les croire.
Ouais, c'est clair.
C'est plus une preuve.
Ouais.
C'est plus une preuve.
Bah, c'est pour ça qu'il faut absolument faire gaffe. Bosser sur un moyen de protéger les trucs qui sont réels, tu vois, genre les flaguer ouais. Comme...
Puis maintenant, on sait faire la voix. La voix, c'est encore plus simple que l'image, donc bon...
Je pense que le truc le plus dangereux pour moi, c'est les trucs politiques, et le problème, c'est comment... Toi, si je crée une vidéo, je dis elle est authentique, mais c'est une fake, tu vois. Genre, je pense que c'est surtout ça le problème. C'est plutôt pas forcément d'avoir un moyen de trouver quels sont les originaux, mais d'avoir un moyen d'automatiquement savoir ce qui a été fait.
Bah, ouais. Alors ça commence sur Thread. Il flag les images que tu mets. Il dit celle-là elle a été potentiellement faite avec une IA. C'est cool parce que mon dernier dessin, il me l'a flagué en disant elle a potentiellement été faite avec une IA. J'ai adoré. T'es obligé de leur envoyer un email, les mecs ils disent ouais, c'est encore le début, on ne sait pas parfait. Putain, mais ça sert à rien ton truc du coup. Ça met de l'huile sur le feu, c'est tout ce que ça fait. Donc ouais. Il faut vraiment que les trucs de détection soient méga balèzes. Sauf que du coup, les outils de génération vont les contrebalancer, ça va être comme des antivirus.
C'est ça.
Ça va être pareil quoi.
Ça va être une guéguerre sans fin quoi.
Mais en plus, tu peux.
Ça va faire partie de notre monde
maintenant. Servir comme une caméra OBS, c'est ça. Donc. Je pourrais me connecter à une conf Teams avec les collègues.
Ah ouais, putain, énorme.
Alors j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a raison quoi. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas rediriger le flux quoi. Ils ont peut-être pas fait ça de base parce que là c'était une application de démonstration.
Ouais, ça me ferait trop marrer de me connecter. Parce que là je vois dans le truc il y a Elon Musk et en plus c'est super impressionnant. On voit dans la vidéo que le mec il
avec une lampe.
Lumière, il utilise une lampe et en fait ça illumine son visage de manière ultra naturelle. T'as vraiment l'impression que c'est.
Ouais,
lui, quoi.
C'est vraiment super bien fait.
Ouais. Ouais. C'est un truc flippant.
Alors vous avez vu, le seul truc c'est que ça fait du bon plaquage pour le visage, mais du coup tout ce qui
mais
est
pas les, cheveux.
Les cheveux et tout ça tu les as pas, donc voilà, moi qui n'ai pas de cheveux, il a fallu que j'utilise des subterfuges
des belles perruques
ouais, c'est ça.
Ok, merci beaucoup. Et pour ma part, moi je vais juste vous dire qu'il faut absolument que vous souteniez Blender 3D si vous faites de la 3D. Je l'ai déjà recommandé, mais je le re-recommande parce que c'est
si
quelque chose qui m'a
recommandé plusieurs fois si j'avais su.
Le truc c'est que l'humanité me désespère souvent, mais il y a des petits moments comme ça. Blender, c'est un produit qui met sa nique à Autodesk et tous ces débiles qui font des produits hyper chers qui sont mal maintenus. Blender, c'est open source, c'est gratuit, ça marche super bien. Voilà. Donc moi, je veux juste te dire que des fois, quand même, comme Wikipédia, c'est des trucs où je me dis l'humanité n'est pas complètement perdue.
Babylon.js, on pourrait le citer, je pense.
Babylon.js, bien sûr.
Et même, c'est marrant parce que du coup, il y a
des problèmes de sécurité. Je trouve des autorités d'exécution de code.
Ouais. On peut exécuter du code avec. Ouais, c'est
on connaît plein de mecs justement qui bossaient à Unity par exemple et qui maintenant ils bossent plus, mais sur leur temps libre, ils s'amusent à faire justement des PR sur Blender pour ajouter des fonctionnalités et tout ça, quoi.
Et c'est vraiment au bénéfice de l'humanité. C'est ça que je trouve beau. Voilà, c'est tout.
C'est beau.
Et ça sera la conclusion de cet épisode, messieurs. On fait un bisou à tout le monde.
Sur une touche de positivité pour l'humanité.
C'est ça.
C'est vraiment la last.
N'oubliez pas d'acheter mes deux livres. Si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ça.
Et les t-shirts.
Et des t-shirts sur notre site.
La conférence est sponsorisée par Delta Koch.
Bisous tout le monde.
Bye bye.
Il y a les bons et les mauvais connards. Vous pensez qu'il y a les bons et les mauvais connards ? Je suis pas sûr.
Tu fais pas ça ?
Reggae night.
Bisous à tous les kids. À la prochaine.